Voici la terrible histoire de Philippe Ignace Semmelweis. J'aurais pu la reprendre au début, la fignoler, la rendre plus alerte. C'était facile, j'ai pas voulu. Je la donne donc pour ce qu'elle vaut. Thèse de médecine à Paris, 1924.
Nous voilà donc repartis pour un troisième numéro dans cet épisode que je consacre entièrement à la thèse médicale du jeune Louis Destouches. Après un premier volet essentiellement axé sur le contexte biographique de notre carabin, après un deuxième volet plus spécifiquement dédié aux conditions de l'écriture de sa thèse, c'est aujourd'hui au tour du texte lui-même, ou plus précisément certaines parties de ce texte, de passer à la moulinette de notre petite étude. Avant de commencer, je tiens à remercier le camarade Serge Uleski de m'avoir sèchement, mais très justement, corrigé en commentaire du précédent volet. Knock est une pièce de Jules Romain, et non de Romain Rolland, bien évidemment. Mon lapsus est tout à fait gênant. Mille grâces et merci à ce Serge Uleski. Dans le même ordre d'idées, je veux également compléter l'impressionnante liste que j'avais donnée des écrivains que Louis compulse entre son passage à Londres, son séjour en Afrique et ses années à Rennes. J'ai de fait oublié, entre autres, de mentionner deux auteurs qui auront une influence certaine sur le futur Céline. Je veux bien entendu parler de Rabelais et de Chateaubriand. En ce qui concerne François-Auguste René de Chateaubriand, on sait que Louis le lira tout au long de sa vie, jusque dans sa geôle danoise. Notre jeune carabin se sent dans une intimité telle avec le breton vicomte que lorsqu'il s'agit d'indiquer, selon la coutume, le nom de l'auteur à la suite d'une citation, Céline écrit aussi souvent « René » tout court que Chateaubriand. Et déjà pendant ses études à Rennes, il le pastichait assez plaisamment. En témoigne cette carte postale datée du 4 mai 1921. Je cite. C'est à l'ombre des remparts de Saint-Malo que le jour me contempla pour la première fois. Un immense frisson agita les eaux profondes, et Dieu, par Zéphyr, avertit les nautonniers du large que la terre, en Gésine, accouchait d'un génie. Et ma mère, mêlant ses larmes aux miennes, n'osait plus m'embrasser. À la manière de René. Fin de citation. Plus tard, le breton, sinon de sang, du moins de cœur, qu'était Louis Destouches, écrira à son ami le docteur Alexandre Gentil cette lettre que je découvre dans les remarquables travaux céliniens du regretté professeur Forisson. Je cite. Je suis plongé dans les mémoires d'outre-tombe que mon avocat m'a prêtées. Je peux les relire sans cesse. Il me parle de cette Bretagne où j'ai tout laissé, où je retournerai mourir si l'on me laisse. Je ne suis qu'un breton de Paris. Je souffre de la nostalgie des cavaliers bretons que j'ai bien connus au 12e cuirassier puisqu'ils formaient le régiment. Nous demeurions à Saint-Malo sous le grand B dans l'ombre de Chateaubriand. Le vicomte a profité après tout des derniers beaux éclats français. Après lui, la grandeur s'est éteinte. Fin de citation. Voilà, si je souligne l'importance de cet écrivain vicomte, c'est parce que j'ai la conviction intime de son influence sur l'écriture de certains paragraphes dans la thèse de Destouches. Quant à François Rabelais, les biographes nous apprennent que les écrits de ce célèbre curé de Meudon faisaient la joie du beau-père de Louis, et que les deux hommes en discutaient souvent à table, qu'est richement. Il y avait sur ce point, entre le professeur Follet et son gendre, une sorte de complicité pour se renvoyer la balle, dans l'intention délibérée de choquer leurs femmes respectives. Si Marie-Louise Follet tombait souvent dans le piège, nous raconte Maître Gibault, sa fille Edith s'en amusait plus qu'elle ne s'en formalisait. Du reste, Louis était devenu pour bien des choses le confident et l'allié de son beau-père, qui lui racontait ses multiples aventures, car ce petit homme lubrique était un infatigable juponnier. Sa Marie-Louise avait fini par accepter son infortune, même lorsqu'il avait courtisé, presque sous ses yeux, la gouvernante allemande de leur fille. Athanase eut ensuite une maîtresse attitrée, en la personne de Maria Le Bannier, qui l'entretint dans un petit hôtel de Rennes avant de l'installer dans un appartement à Saint-Malo et de lui léguer une partie de sa fortune. Tout Rennes connaissait l'histoire, et il n'est pas improbable que Louis partageât pour un temps ses faveurs. Mais je m'égare un peu. Mon petit côté provincial, ragoteur, je suppute. Quoi qu'il en soit, Céline dira plus tard de Rabelais ceci que je crois très important. Je cite. Rabelais a vraiment voulu une langue extraordinaire et riche. Mais les autres, tous, ils l'ont émasculée, cette langue, jusqu'à la rendre toute plate. Ainsi, aujourd'hui, écrire bien, c'est écrire comme Jacques Amyot. Mais ça, c'est jamais qu'une langue de traduction. C'est ça la rage moderne du français. Faire et lire des traductions. Parler comme dans les traductions. Comme Rabelais, j'ai tout trouvé dans le français même. Où est la postérité de Rabelais, la vraie littérature ? Disparue. La raison en est claire. Il faudrait comprendre une fois pour toutes, assez de pudibonderie, que le français est une langue vulgaire, depuis toujours, depuis sa naissance au traité de Verdun, en 843. Seulement ça, on ne veut pas l'accepter, et on continue de mépriser Rabelais. Ah, c'est rabelaisien, dit-on parfois. Ça veut dire, attention, c'est pas délicat ce truc-là, ça manque de correction. Et le nom d'un de nos plus grands écrivains a ainsi servi à façonner un adjectif diffamatoire. Monstrueux. Fin de citation. Alors j'ignore comment Céline savait cela, mais il est tout à fait exact qu'au XVIe siècle, la traduction donnée par Jacques Amyot des vies parallèles du grec Plutarque constitua l'une des plus retentissantes réussites commerciales de la toute nouvelle imprimerie. J'ajoute, ou plutôt je répète ma leçon apprise sur les bancs de l'université, que ces vies parallèles, nouvellement traduites en français, étaient proposées à la méditation de tous les jeunes gens de bonne famille, au moins pendant 2 siècles. On peut donc tout à fait supposer, avec Céline, que la langue de Jacques Amyot finit par imprégner celle de ces jeunes Français. Qu'on veuille bien me pardonner cette minute d'érudition, qui prendra toute son importance lorsque j'aborderai dans une future émission les trop méconnues bagatelles pour un massacre. Je sais bien que certains auditeurs s'impatientent, qu'ils voudraient que j'aille directement leur exposer les beautés de la trilogie allemande, par exemple. Tel ce Guillaume qui me laissait en avril dernier ce méchant commentaire. Je le cite. Vous vous intéressez trop au brouillon volé de Céline, guerre, Londres, ou à une thèse médicale certes pertinente, mais enfin, rien de rien sur les grandes orgues littéraires que sont Nord ou d'un château l'autre, voire les beaux draps. Ce sont pourtant les vrais chefs-d'œuvre de Céline. Quant à Guignol's Bande ou Rigaudon, c'est illisible. Il est vrai que le dernier était un brouillon. Fin de citation. Mais vois-tu, Guillaume, en te lisant, je me dis que je fais bien d'y aller pas à pas, progressivement, lentement, doucement, tout doucement. Déclarer Guignol's Bande illisible. Ma foi, que te répondre ? Peut-être eût-il été plus correct d'avouer que c'était illisible pour toi. Qu'en penses-tu ? Tiens, je vois que tu cites dans un autre commentaire Lucien Rebattet, qui aurait trouvé mort à crédit, je te cite, « mal fichu, mal fini ». Je reviens là-dessus dans une minute, mais voyons d'abord ce que ce bon Lucien écrivait dans ses mémoires de Guignol's Bande, illisible d'après mais surtout pour toi. Je le cite. Quelques mois plus tôt, je n'avais lu dans Guignol's Bande qu'une caricature épileptique du style de Céline. Je l'ai relu ce printemps, c'est un inénarrable chef-d'œuvre. Céline a toujours eu 10-15 ans d'avance sur nous. Fin de citation. Quant à mort à crédit, Guillaume chéri, tu oses ceci, je te cite. Par ailleurs, ce que vous tentez de faire avec un succès mitigé selon moi, c'est une manière d'archéologie célinienne, qui ressemble à celle de monuments inachevés. Vous devriez aussi savoir que Céline s'est vite désintéressée de mort à crédit, qu'il a donné tel quel à De Noël pour des raisons financières. On a démontré qu'il se concentrait désormais sur Bagatelle, qu'il écrit en même temps et qui pâtit selon moi du même problème. Ce sont des brouillons qui ne trouveront leurs conclusions respectives que dans les beaux draps et la trilogie allemande. Mal fichu, mal fini, ce livre est tombé des mains de tous les gens à l'époque. Même Rebattet l'a dit, je crois. C'est qu'au fond, Céline pressentait qu'on changeait d'époque et que ses vieux sujets étaient périmés. d'avant 1939, il ne doit rester que le voyage, le reste ne mérite pas l'attention du grand public. Fin de citation. Tu me pardonneras de jouer à la maîtresse, Guillaume, mais tu représentes vraiment un cas d'école, de cette médiocre, ignorante, infernale jactance, si sûre d'elle-même, si française au fond. Non, personne n'a jamais démontré, je te cite, que Céline se serait vite désintéressée de mort à crédit pour se concentrer sur Bagatelle. Non, mon prépuceau, Céline n'écrit pas Bagatelle en même temps que mort à crédit. Tout simplement parce que la rédaction du pamphlet démarre pendant l'été 1937, soit plus d'un an après la mise en vente du roman. Entre-temps, Céline avait publié son extraordinaire Mea culpa, objet de ma toute première émission, à laquelle je te renvoie charitablement. Non, mort à crédit dont la rédaction s'étale sur presque 4 ans n'est pas un brouillon, je te cite encore. Tiens, écoute ce que Céline lui-même en disait de son mort à crédit, dans une lettre à son traducteur tchèque, Jaroslav Zahoralek. Je le cite. « Cher ami, je ne suis pas surpris par la réaction de vos critiques. Je les attendais. La clique juive, soviétique et maçonne autrichienne au pouvoir chez vous ne pouvait manquer de baver de la sorte. Je ne crois pas d'ailleurs, même de bonne foi, qu'elle aurait compris. Le destin de la critique est de toujours immanquablement déconner. En réalité, mort à crédit est infiniment supérieur à tous égards au voyage. C'est de l'expression directe. Le voyage était encore littéraire, c'est-à-dire merdeux par plus d'un côté. La critique, comme le public, comme le petit Guillaume, aime avant tout le faux, le simili, l'imposture. Il fuit l'authentique. On ne le changera pas. Soit, je m'en fous après tout. Je veux bien partager le sort de tous les créateurs véritables. Je veux bien être seul contre tous. Il me plaît même parfaitement d'en arriver là. Toute approbation a quelque chose de dégradant et de vil. L'applaudissement fait le singe. En ces temps parfaitement grégaire, il m'est agréable de chier sur n'importe quelle puissance. Quant à l'optimisme, vous me permettrez de rigoler. Tous les charlatans sont optimistes. Que serait-il sans bonne humeur? Tout est là. Quant au photographique, rien de moins photo que mort à crédit. Il faut être complètement abruti comme un critique pour ne sentir aucune transposition. Fin de citation. Non, Guigui, Rebattet n'a jamais dit que mort à crédit était, je te cite, mal fichu, mal fini. Non, mon mignon, il n'a jamais précisément écrit que ce roman lui était, je te cite encore, tombé des mains. Tiens, pour remettre les points sur les i dans ta mémoire décidément très confuse, je cite une dernière fois le bon Lucien. Bien qu'alerté par ces signes de la grandeur, les admirateurs les plus spontanés et les plus sincères de Céline connaissaient encore devant lui bien des hésitations. Selon l'habitude, on l'attendait à son second livre. Au bout de 4 ans, vint ce second livre, mort à crédit, certainement son chef-d'œuvre, celui qui pourrait à la rigueur dispenser de lire tous les autres. Robert Brasillach fut le premier à écrire qu'auprès de cette syntaxe haletante, de cet argot déchaîné, le voyage qui nous avait paru marquer les limites de la virulence et de l'outrance offrait à présent l'aspect d'un texte classique où rien ne nous surprend dès l'abord, où tout est à la fois lisse, dur et ténébreux. Fin de citation. Voilà peut-être de quoi réévaluer le jugement péremptoire que tu assènes en commentaire, Guillaume. Je te cite. D'avant 39, il ne doit rester que le voyage. Le reste ne mérite pas l'attention du grand public. Décidément, moins on sait, plus on s'étale. Tiens, 3 courtes citations que je t'inflige encore, puisque tu aimes ça les petites fessées. La première, tirée d'une fameuse interview pour l'Express en 1957, à Madeleine Chapsal qui lui faisait remarquer... Je cite « Dans votre livre, vous paraissez regretter Voyage au bout de la nuit, non seulement parce qu'il vous avait attiré des ennuis, mais aussi parce que, dites-vous, les gens vous jettent toujours leur admiration pour le voyage à la tête. » Céline répond, je cite « Oui, là aussi, il m'emmerde. Dans le voyage, je fais encore certains sacrifices à la littérature, la bonne littérature. On trouve encore de la phrase bien filée. À mon sens, au point de vue technique, c'est un peu attardé. » Fin de citation. Deux autres citations, cette fois trouvées dans un bouquin qu'on ne saurait trop recommander, mon cher Guillaume, celui du critique littéraire belge Robert Poulet, mon ami Bardamu, ça s'appelle. Prends note, je cite. Maintenant, ce style, celui de voyage au bout de la nuit, je le trouve encore trop vieillot et trop timide. Il y a encore pas mal de phrases filées. Je ne peux plus avaler ça. C'est écœurant.
Il est écœurant ?
À l'époque de voyage au bout de la nuit, je n'osais pas encore aller jusqu'au bout, sinon de la nuit, du moins de mon idée. C'est encore du Paul Bourget, plus qu'à moitié. Fin de citation. Voilà, mes petits, j'espère que tu ne m'en voudras pas de prendre le temps de venir te torcher les lèvres. C'est que, comme Louis, je suis résolument hygiéniste. Écrire en commentaire, comme tu le fais, humainement parlant, Céline est un beauf, archi-méprisant, une vraie langue de pute. Bon, c'était forcément attirer ma prévenance, réveiller mes vieux réflexes de boy scout, de secouriste. Beauf méprisant, langue de pute. Décidément, l'époque est à l'inversion accusatoire, au vindicatif des prépucelés de la déséducation nationale. Juivre ou mourir, tu ne fais pas exception, guignol. Bref, tout ceci me convainc de suivre l'excellente suggestion de ma paise Evelyne. Elle aussi originaire d'Anvers, d'ailleurs. Je la salue au passage. Qui me disait comme ça l'autre jour que, puisqu'il était entendu que les 3-4 parisiens de Les Fines Jacasses, dans le genre Itohan, Guillaume et consorts, semblaient tous pareillement invertis d'une air sympathique, bon ben ma foi que je ferais bien d'assumer d'être un peu plus scolaire, pédagogique en somme. Tout le tintouin des plans. Résumé, rappel, enfin l'ABC de l'école primaire. Retour au paléozoïque. Vive l'ère du protozoaire, ma chère Evelyne. Guillaume, ton petit crayon, prends note. La vie est l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis. Si c'est la thèse de l'étudiant des touches, c'est en réalité aussi le premier roman du futur Céline. Le but de mon triptyque épisode, c'est de te faire piger pourquoi l'écrivain avait bien raison de l'inscrire en 36 au catalogue de ses œuvres éditées chez De Noël. Et pourquoi, loin d'être l'anecdotique archéologique machin que tu sembles croire, ce texte donne en réalité déjà quelques clés pour mieux comprendre notre médecin pamphlétaire. Le volet d'aujourd'hui est ainsi monté que tu en sortes tout enrichi de notions nouvelles sur la pensée du natif de Courbevoie. En tout cas, c'est la grâce que je te souhaite. Bon, allons au fait. Taille ton petit crayon, grand guignol. Voici le plan du jour. Dans un premier temps, je te fais écouter un large extrait du premier épisode d'une vaste fresque documentaire réalisée en 2021 par une certaine Christine Le Cerf sur la tragique figure d'Ignace Semmelweis. J'y incorpore un témoignage peu connu sur l'attitude du Céline médecin des derniers jours que nous raconte un danseur ami de Lucette, Serge Perrault. Ça, c'est donc la première partie de ce volet, en guise d'introduction, si tu veux, croquignole. Ensuite, je lis et commente quelques passages de ce merveilleux petit roman médical célinien. Deux, trois petites surprises viendront agrémenter l'écoute de l'ensemble, et ne manqueront pas de susciter la plus vive curiosité, si ce n'est de la bande des guignols qui sévissent en commentaire, en tout cas des vraiment amoureux de notre Louis le Dernier. Et maintenant, baste de ces notules introductatoires. à notre émission. Bonne écoute à tous.
Il existe un film américain qui s'appelle The Story of Louis Pasteur, qui a été fait en 1936 et qui commence par un meurtre, c'est-à-dire c'est un père de famille qui tue le médecin qui a laissé mourir sa femme au moment de l'accouchement. Et lorsqu'il est devant le juge,
justice! In what way did he wrong you? He killed my wife!
Le père de famille, effondré par la mort de son épouse, sort un document sur lequel il est écrit « Docteur, médecin, ne soyez pas des assassins, lavez-vous les mains. » Et c'est signé Louis Pasteur.
Louis Pasteur? Now who is he?
He is a menace to science. The shooting of Dr. Francois proves it. Now, monsieur, if Pasteur is allowed to continue, he will make the practice of medicine unsafe.
Et c'est assez fascinant parce qu'en fait, ce film commence avec cette histoire, comme si c'était Louis Pasteur qui était le porteur de cette idée qu'il fallait se laver les mains. Et cela illustre.
Oh, Monsieur Pasteur, it's the most fascinating.
If you please, my dear.
L'impact qu'ont les mythes par rapport à la réalité. Parce qu'en France, on a entretenu le mythe du héros. Pasteur est un héros.
Your Majesty, I have a surprise for you. Who do you think is here? I am most curious, Your Majesty. Who? Pasteur. Pasteur? Here at the palace? Yes. I sent for him.
Le mythe Pasteur, la statue du commandeur.
Sir Pasteur, you are wanted.
Et donc, on va attribuer à Pasteur cette... ce concept du lavage des mains, alors que ce concept, il est à Semmelweis.
Is it not true that you are the author of a pamphlet which caused the death of a noted physician, and also that you practice medicine of a kind?
I don't practice medicine. I'm trying to put a stop to the negligence of those who do. Pasteur.
Oh, Monsieur Pasteur, it's the most fascinating.
If you please, my dear.
Et Pasteur n'aura jamais fait allusion aux travaux de Semmelweis, et même s'il a effectivement contribué à améliorer les conditions d'accouchement, puisque Pasteur lui-même a travaillé sur les fièvres puerpérales et a préconisé l'acide borique pour nettoyer les voies génitales après l'accouchement, en aucun cas il n'a abordé le problème des mains des obstétriciens. J'ai trouvé ces images dans ce film très fortes, puisque finalement on attribuait un héros à une icône, Louis Pasteur, des propos et des conclusions qui n'étaient pas les siennes, mais qui étaient celles de Semmelweis.
La question du pionnier est très débattue en histoire des sciences. En histoire des sciences, précisément, le pionnier n'a pas de statut puisqu'il n'a rien découvert.
Elisabeth Rodinesco.
Il a pressenti et vit dans l'ombre de la vérité. C'est un statut absolument épouvantable de voir quelque chose qu'on n'arrive pas à expliquer. Celui qui voit des choses, et puis ensuite, 50 ans plus tard, celui qui va expliquer, prouver, montrer. Il y a ceux qui ont pressenti, décrit, vu, et ensuite, il y a ceux qui théorisent. Et donc, c'est facilement un personnage de maudit. C'est vraiment tragique, la destinée de Semmelweis. C'est pour ça que ça a tellement frappé les esprits. Et c'est pour ça que la thèse de Céline, qui le réhabilite en quelque sorte, a tellement intéressé tout le monde. Je crois franchement qu'on n'aurait pas réhabilité à ce point Semmelweis sans Céline. On aurait reconnu, bien sûr. On reconnaît toujours dans l'histoire des sciences qu'on a un pionnier qui n'existe pas, mais ceux qui ont été avant la grande découverte. Mais une fois encore, hein, s'il n'y avait pas S'il n'y avait pas le texte de Céline, on ne regarderait pas Semmelweis de la même façon. Donc, c'est Céline qui a rendu Semmelweis vivant.
C'est la première fois que l'écrivain Louis-Ferdinand Céline parle à la radio.
J'ai écrit une thèse qui s'appelle « La vie et l'œuvre de Philippe Ignace Semmelweis » et qui est en somme un peu littéraire. Elle peut être considérée comme, comme un premier roman, si l'on veut dire. Alors, c'est un roman médical, strictement médical, et scientifique pour une partie. Aussitôt après ma thèse, je suis entré à la subvention, à la section d'épidémiologie et d'hygiène à Genève, en 1924, exactement, oui. Et puis, j'ai continué à écrire parce que je travaillais après dans un dispensaire municipal. J'avais uniquement une vocation médicale. Et je regrette de l'avoir un peu négligé. Je me serais livré entièrement à la médecine. Je n'aurais pas eu tant d'ennui. Et alors, je me suis livré à la littérature et il m'en a coûté très cher. Ça rend la vie très compliquée. Ça m'a toujours été une espèce de malédiction, cette affaire d'écrire.
Il a écrit une thèse que je trouve magnifique. Si les gens n'ont qu'un livre à lire de Céline, ils n'ont qu'à lire Semmelweis. Pourquoi le lire? Parce que c'est une vraie fresque. Il a un ton hugolien, Céline. Et il a écrit sa thèse avec une ferveur énorme. Donc, Semmelweis, il en a fait un grand personnage, épique, avec une thèse magnifiquement écrite, qui fait 120 pages, c'est pas un pavé. C'est une thèse littéraire, en fait. Et alors, il a écrit sa thèse à l'instigation de Brindot. Il a eu la mention très honorable. Et c'est à ce moment-là que Brindot a dit à Céline, « Vous devriez écrire. »
Semmelweis était issu d'un rêve d'espérance que l'ambiance constante de tant de misères atroces n'a jamais pu décourager. Que toutes les adversités, bien au contraire, ont rendu triomphant. Il a vécu, lui, si sensible, parmi des lamentations si pénétrantes que n'importe quel chien s'en fût enfui en hurlant. Mais ainsi, forcer son rêve à toutes les promiscuités, c'est vivre dans un monde de découvertes, c'est voir dans la nuit. C'est peut-être forcer le monde à entrer dans son rêve.
Louis-Ferdinand Céline, enfin, qui s'appelait Destouches à l'époque, lors de ses études de médecine,
David Labreur.
On lui avait raconté une histoire à Céline. Il ne s'est pas renseigné lui-même de prime abord sur Semmelweis. On lui a raconté l'histoire. Deux médecins lui ont raconté l'histoire. Brindot, qu'il a rencontré à la maternité Tarnier, qui est son directeur de thèse, et Véron, qui était professeur d'obstétrique à Rennes. Ce sont ces deux médecins-là qui lui ont passé cette histoire. Donc on peut dire que c'est l'exemple type du mythe qui se transmet, de l'histoire qui se transmet, du récit qu'on se raconte de génération de médecins en génération de médecins. Vous voyez cet individu qu'on n'a pas compris à cette époque-là, qui a été voué à la folie, qui est mort dans des circonstances affreuses. Voilà. Et donc c'est un mythe effectivement qui se transmettait depuis la fin du 19e siècle. Par exemple, dans la revue de vulgarisation scientifique « Je sais tout », Metchnikov, qui est un savant de l'Institut Pasteur, un biologiste à l'Institut Pasteur, raconte donc ses martyrs de la science et Semmelweis en fait partie. Donc l'histoire circule, l'histoire est connue. Et donc Céline s'est emparé de ce mythe, en a fait sa propre version. Après en avoir entendu parler donc, par ces deux médecins, donc Céline se met à faire des recherches sur le personnage. Alors, il n'y a pas une bibliographie extrêmement épaisse. On est à peu près sûr qu'il a lu l'ouvrage de Sinclair, qui est la première biographie d'ampleur anglo-saxonne sur le sujet. On ne peut pas dire qu'il était extrêmement exhaustif. Il a sûrement lu des articles, des notices. Un peu par là, il faut dire que Céline a plutôt un savoir encyclopédique, mais de vulgarisation. Il lit beaucoup, mais il est beaucoup dans la vulgarisation scientifique. Donc, il a probablement lu aussi l'article de Metchnikov. Donc tout ça fait un espèce de bric-à-brac de référence entre les gens qui lui ont raconté l'histoire, quelques ouvrages de référence de l'époque et ses propres lectures de vulgarisation scientifique qui ont fait naître un petit peu sa propre interprétation du mythe.
Lui seul se refuse au destin et n'en est pas écrasé. Mais Semmelweis en souffre plus que tous les autres, dans tous les temps, à Vienne aussi bien qu'à Paris, à Londres, comme à Milan. Eux tous ont, tôt ou tard, courbé la tête sur le passage du fléau puerpéral. Hypocritement, ils ont pactisé avec la mort. Rarissime est celui qui ose, et trouve en lui la force qu'il faut pour affronter le destin commun qui l'entraîne. Semmelweis choisit cette tâche à sa mesure et en son temps. « Le destin m'a choisi, écrit-il, pour être le missionnaire de la vérité. »
La première fois, je ne me souviens pas, je pense que je devais être étudiant, c'est quand j'ai lu la thèse de Louis-Ferdinand Céline. C'est une histoire qui m'a beaucoup marqué, interpellé. Ce premier petit livre, je l'ai prêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Je l'ai racheté, je l'ai reprêté à quelqu'un qui ne me l'a jamais rendu. Donc, du coup, mais bon, c'est effectivement, ça a été cette histoire-là. À l'époque, je réalise moins que c'est une thèse, plus que c'est une histoire, et je lis l'histoire. En particulier, Céline dit que Semmelweis s'est suicidé en se blessant lui-même avec un scalpel imbibé de matériel putride. C'est effectivement tout à fait romancé. Et l'histoire de Semmelweis, elle est juste fascinante dans son côté tragique. Sa vie a été une tragédie, son combat contre la nomenclatura médicale a été une tragédie et sa mort a été une tragédie.
On a le sentiment que c'était vraiment un personnage pour Céline, qu'on pourrait retrouver dans ses romans d'ailleurs. Parce que Céline est évidemment un écrivain qui n'a pas encore publié son œuvre romanesque, mais c'est un roman. La manière dont il raconte l'itinéraire tragique de Semmelweis, on voit qu'il s'agit plus à ce moment-là, je dirais, d'un romancier qui a beaucoup de talent, une plume enflammée, que d'un historien de la médecine. Quelquefois, d'ailleurs, ce qu'il invente est plus vrai que la réalité. Il y a un lyrisme, il y a un extraordinaire lyrisme. Il dresse un extraordinaire itinéraire d'un très grand médecin auquel il s'identifie, il le dit d'ailleurs, auquel il s'identifie, c'est-à-dire une personnalité sensible, un médecin des pauvres, en quelque sorte, un médecin des marginaux, un médecin des femmes. Et Céline, on voit tout de suite à quel point cet homme peut le fasciner.
Semmelweis n'avait aucune ambition. Il n'avait pas non plus ce souci de la vérité pure qui anime les chercheurs scientifiques. Il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ses malades. Hanté par la souffrance des hommes, Semmelweis écrivit, au cours de ces jours si rares où il pensait à lui-même, « Toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable, surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie. »
Effectivement, il y a le côté très empathique de Semmelweis, bon, qui va aussi un peu avec le mythe, hein, avec le mythe du médecin. Apparemment, d'après les descriptions, c'était un médecin quand même assez apprécié, Semmelweis. Il était très au chevet de ses patients, il prenait le temps. C'était un peu sur l'exemple du médecin des pauvres après que Céline revendiquera être.
Les petites anecdotes que je raconte. Ce sont comme, vous savez, j'ai fait mon petit Le Nôtre là. Ce sont des petits faits. Mais ce sont, à mon avis, ce sont des petits faits qui sont très, très édifiants. L'attitude de Céline devant la, toujours ce souci d'être discret dans ses bonnes actions, hein. Je l'ai vu aller soigner une vieille concierge. Je l'ai surpris, là, habillé. Lui qui était habillé d'habitude, il s'en foutait. Et là, il était habillé comme un lord, comme un gentleman, avec sa sacoche. Il allait voir une vieille concierge qui se mourait au Bas-Meudon. Je l'ai croisé sur l'allée pavée qui menait à son... Et là, il m'a fait un petit signe. Il était gêné que je le vois habillé comme ça. Alors, il m'a pas dit où il allait, bien sûr. Hein. Il m'a deviné plus qu'il m'a vu. Il m'a fait un petit signe pour me dire « Elle est là-haut ». Et donc, je suis monté chez Lucette. Et quand je suis arrivé chez Lucette, j'ai dit à Lucette, mais je viens de rencontrer Céline, mais qu'est-ce qui va? Je ne l'ai jamais vu habiller comme ça. Mais oui, mais il s'habillait toujours comme ça quand il allait voir soigner ses malades. La dignité de Céline, qui s'habillait pour aller voir ses malades, et qui était honteux, gêné, qu'on le surprenne à faire quelque chose de bien. J'ai vu dans son regard, je le gênais. Il a voulu que je ne sois pas là, à le voir, à aller soigner ses pauvres, et pour pas un sou, bien entendu. C'est un faux méchant, Céline. On en a fait un faux méchant. C'était un homme compatissant, Céline. Mais évidemment, il est trompeur, parce qu'il se mettait du caca sur la tête tout le temps. Il avait ses raisons, je ne vais pas avancer là-dedans.
Un médecin quand même assez apprécié, Semmelweis. Il était très au chevet de ses patients, il prenait le temps. C'était un peu sur l'exemple du médecin des pauvres après que Céline revendiquerait être. C'est ce côté très proche des patients, prendre le temps, être à leur chevet, discuter, être aussi dans l'empathie. Ça participe aussi au mythe, l'empathie du médecin, évidemment.
C'est à la fois quelqu'un d'humaniste, de très généreux, de très compatissant. Il a cette relation peut-être d'amour, c'est peut-être un peu exagéré, mais il est vraiment dans un état de souffrance quand il voit les jeunes accouchées mourir les unes après les autres. Et il souffre dans son propre corps. Il se sent coupable en même temps. Il veut guérir, il veut soigner. Donc il est engagé dans un combat. Ça intéresse Céline parce qu'il est comme ça, Céline. Céline était très à l'écoute. Il restait des heures en consultation.
C'est une ode à la médecine. Parce que Céline a une profonde affection pour la médecine et il voulait rétablir un petit peu le personnage du médecin, le personnage idéal du médecin avec Semmelweis en disant voilà un exemple de médecin qui va apporter la lumière au monde, qui va amener la vie, qui va se battre contre la mort jusqu'à sa propre mort à lui. Et cette confrontation à ce destin tragique-là fait aller non seulement vers la médecine, mais aussi vers la littérature.
Il va commencer Voyage au bout de la nuit bientôt. Bon, sa thèse, elle date de 1924. Donc on est à 10 ans d'écart de Voyage au bout de la nuit. Mais il y pense beaucoup. Il y pense beaucoup. Et il est dans une position héroïque, Céline. C'est-à-dire qu'il va défier le monde entier. Comme Semmelweis avait défié le conformisme médical de l'époque. Donc il va trouver un héros, là. Mais il sera, lui, postérieurement, le héros de la littérature. Tandis que Semmelweis, c'est le héros de la médecine. Et ce qui lui plaît, c'est que le personnage va être maudit. Il dira la vérité, et c'est jamais bon de dire la vérité. Donc il va retrouver ça chez Semmelweis, un prophète maudit.
Semmelweis puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau. Vivre. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort.
Et je crois que Céline est aussi sensible au caractère dramatique de l'existence de Semmelweis qu'à une vie de souffrance. Parce que quand on récapitule sa biographie, par exemple, le jour où il a passé sa thèse sur la vie des plantes, c'était en 1844, il était au chevet de sa mère qui était mourante. Il n'était pas sa soutenance de thèse. Son père est mort un an et demi après, au moment où il commence à être assistant. Ça l'a marqué. Puis il y a la mort de ses enfants. En 1657 et 58, ses deux premiers enfants sont morts. Lui, le médecin accoucheur, il a des enfants morts. Donc il a vécu des moments extrêmement difficiles, de caractère dépressif et mélancolique. Est-ce qu'il a eu des éléments délirants? Moi, je vois plus quelqu'un, effectivement, du côté sombre. Semmelweis est désespéré. Parce que faut dire qu'il a affronté que j'appelais la Mette en Europe centrale, qui était l'hôpital général de Vienne, il a affronté une institution impériale. Il était hongrois, en plus il n'était pas allemand ni autrichien. Et il s'est affronté à une structure énorme qui l'a ridiculisé. Il a été blessé narcissiquement. Alors là, on pourrait rejoindre Céline aussi, parce que Céline était dans une désespérance totale.
Semmelweis s'était détaché, lancé dans l'incohérence. Il avait perdu sa lucidité, cette puissance des puissances, cette concentration de tout notre avenir sur un point précis de l'univers. Rapidement, il devint le pantin de toutes ses facultés, autrefois si puissantes, à présent déchaînées dans l'absurde. Il errait avec les fous, dans l'absolu, dans ces solitudes glaciales où nos passions n'éveillent plus d'écho, où notre cœur humain terrorisé, palpitant à se rompre sur la route du néant, n'est plus qu'un petit animal stupide et désorienté.
Mais Semmelweis, il a eu une mort atroce. Il serait mort dans la souffrance, n'importe comment. Et là, il est mort dans une double souffrance. Il a été battu, il a été maltraité, pris pour un fou. Et il est mort d'une septicémie gravissime, dont de grosses souffrances physiques. On l'a laissé mourir. D'ailleurs, Céline avait donné, les derniers jours de Semmelweis, un extrait de sa thèse. Céline s'est identifiée totalement à cette mort atroce, et c'est pour ça qu'il a en particulier voulu réhabiliter Semmelweis.
20 fois le soir descendit avant que la mort n'emportât celui dont elle avait reçu l'affront précis, inoubliable. C'était à peine un homme qu'elle allait reprendre. Une forme délirante, corrompue, dont les contours allaient s'effaçant sous une purulence progressive. Le 13 août 1865, au matin, la mort le saisit à la gorge. Il étouffa. Des senteurs putrides envahirent la chambre. Semmelweis entra dans la paix à 7 heures du soir.
Il a trouvé son héros, donc il l'a magnifié. Ça a été une identification complète à ce personnage historique méconnu qu'était Semmelweis. Et donc la thèse de Céline est une thèse extrêmement subjective. Ce n'est pas une thèse historique, ce n'est pas une thèse précise. Il donne des chiffres erronés, il donne des dates erronées. Il invente même des choses que par exemple, Semmelweis, dans une période d'agitation, aurait distribué des tracts dans la rue ou aurait collé des affiches sur les monuments publics sur la fièvre puerpérale. C'est absolument faux. Les historiens de la médecine hongroise ont montré que c'était des affabulations.
Oui, c'est plus que de l'identification à Semmelweis. C'est de l'incorporation. Mais Céline ne sait pas faire autrement. Céline dévore Semmelweis. C'est un dévoreur. C'est pas du tout quelqu'un qui a la moindre distance avec ses personnages. Tous les personnages de Céline sont lui-même. C'est lui-même. C'est la folie de Céline, d'ailleurs, d'être à la fois l'auteur, le narrateur et le personnage du livre. Il dévore tout de Semmelweis. Il dévore le personnage dans son entier, dont il fait d'ailleurs un persécuté. Céline aussi est fou par certains côtés. C'est des fous lucides, hein, c'est pas des fous hallucinés, mais il y a un destin de folie chez les deux.
Autour de la tragédie de Semmelweis, ce ne sont pas des hommes qui s'affrontent. Ce sont des puissances biologiques énormes qui se combattent. Cette méchanceté infernale dont il fut la victime a la grandeur et la fatalité d'une guerre.
Semmelweis, pour Céline, c'est quelqu'un qui s'élève au-dessus de la mêlée des hommes. Céline en fait une sorte d'idéal en tant que médecin et en tant qu'homme. Pour lui, l'humanité, c'est ça. L'humanité doit tendre vers une certaine forme de pureté, presque, du personnage de Semmelweis, pur face à la corruption de tous en face.
Pas oublier que Céline est un médecin hygiéniste. Hein. Il s'occupe de médecine sociale, de médecine d'hygiène, d'épidémiologie. Il est d'ailleurs fou furieux avec ça. Il voudrait aider toute l'humanité contre les microbes. Ce qui va le rendre fou, puisqu'ensuite il va dire que les microbes viennent des Juifs. Ça, c'est le destin de Céline. Hein.
Un grand bienfaiteur paraîtra toujours, bien qu'on dise ou qu'on fasse, un peu banal, d'une beauté un peu usée, comme celle de l'eau et du soleil. Semmelweis fut un très grand cœur et un grand génie médical. Il semble que sa découverte dépassa les forces de son génie. Ce fut peut-être la cause profonde de tous ses malheurs.
C'est vrai qu'en France, on a l'écran célinien lorsqu'on parle de Semmelweis. En tout cas, ça a été aussi mon écran. Je pense qu'il y a cette image très romantique du... disons, cette image un peu cassandrienne de Semmelweis, qui est très séduisante. C'est le prophète qui crie dans le désert et qui n'est écouté de personne. Ce qui n'est pas tout à fait juste parce qu'en Hongrie, il a été écouté, par exemple.
Voilà, c'était un extrait de la vraiment très belle et très tragique série documentaire réalisée par Christine Le Cerf sur la figure de Semmelweis. Je la conseille vivement à ceux qui ne connaissent la douloureuse destinée du Hongrois que sous la plume de notre cuirassier colonial Garabin. Mais lisons maintenant l'insipide de sa thèse. Essayons de nous figurer la tête des membres du jury en découvrant ce coup de tonnerre au style si sarcastiquement épique. Mirabeau criait si fort que Versailles eut peur. Depuis la chute de l'Empire romain, jamais semblable tempête ne s'était abattue sur les hommes. Les passions en vagues effrayantes s'élevaient jusqu'au ciel. La force et l'enthousiasme de 20 peuples surgissaient de l'Europe en les ventrant. Ce n'était partout que remous d'êtres et de choses. Ici, tourmente d'intérêt, de honte et d'orgueil. Là-bas, conflits obscurs, impénétrables. Plus loin, héroïsme sublime. Toutes possibilités humaines, confondues, déchaînées, furieuses, avides d'impossible, couraient les chemins et les fondrières du monde. La mort hurlait dans la mousse sanglante de ces légions disparates. D'une île à Stockholm et de Vendée jusqu'en Russie, 100 armées invoquèrent dans le même temps sans raison d'être sauvages. Les frontières ravagées, fondées dans un immense royaume de frénésie, les hommes voulant du progrès et le progrès voulant des hommes, voilà ce que furent ces noces énormes. L'humanité s'ennuyait, elle brûla quelques dieux, changea de costume et paya l'histoire de quelques gloires nouvelles. Et puis, la tourmente apaisée, les grandes espérances ensevelies pour quelques siècles encore, chacune de ces furies parties sujettes pour la Bastille, en revint citoyenne et retourna vers ses petitesses, épiant son voisin, abreuvant son cheval, cuvant ses vices et ses vertus dans le sac de peau pâle que le bon Dieu nous a donné. En 1793, on fit les frais d'un roi. Proprement, il fut sacrifié en place de grève. Au tranchant de son cou jaillit une sensation nouvelle, l'égalité. Tout le monde en voulut, ce fut une rage. L'homicide est une fonction quotidienne des peuples, mais en France, tout au moins, le régicide pouvait passer pour neuf. On osa, Personne ne voulait le dire, mais la bête était chez nous, au pied des tribunaux, dans les draperies de la guillotine, gueule ouverte. Il fallut bien l'occuper. La bête voulut savoir combien le roi vaut de noble. On trouva que la bête avait du génie. Et ce fut dans la boucherie une surenchère formidable. On tua d'abord au nom de la raison, pour des principes encore à définir. Les meilleurs usèrent beaucoup de talent pour unir le meurtre à la justice. On y parvint mal. On n'y parvint pas. Mais qu'importait-il au fond ? La foule voulait détruire, et cela suffisait. Comme l'amoureux caresse d'abord la chair qu'il convoite, et pense à demeurer longtemps à ses aveux, puis malgré lui, se hâte. Ainsi, l'Europe voulait noyer dans une horrible débauche les siècles qui l'avaient élevée. Elle voulait cela encore plus vite qu'elle ne l'imaginait. Il ne convient pas plus d'irriter les foules ardentes que les lions affamés. On se dispensa donc de chercher désormais des excuses pour la guillotine. Machinalement, une secte entière fut désignée, tuée, débitée, comme de la viande, plus l'âme. La fleur d'une époque fut tachée, menue. Cela fit plaisir un instant. On aurait pu en rester là, mais sans passion qui bâillait d'ennui devant la lenteur de cette minutie, un soir de dégoût, renversèrent l'échafaud. Du coup, 20 races se précipitèrent dans un affreux délire, 20 peuples conjoints, mêlés, hostiles, noirs ou blancs, blonds et bruns, se ruèrent à la conquête d'un idéal. Bousculés, meurtris, soutenus par des phrases, guidés par la faim, possédés par la mort, ils envahirent, pillèrent, conquirent chaque jour un royaume inutile que d'autres perdraient demain. On les vit passer sous toutes les arches du monde, tour à tour, dans une ronde ridicule et flamboyante, déferlant ici, battu là-bas, trompé partout, renvoyé sans cesse de l'inconnu au néant, aussi content de mourir que de vivre. Au cours de ces années monstrueuses où le sang flue, où la vie gicle et se dissout dans 1000 poitrines à la fois, où les reins sont moissonnés et broyés sous la guerre, comme les raisins au pressoir, il faut un mâle. Aux premiers éclairs de cet immense orage, Napoléon prit l'Europe et bon gré, mal gré, la garda 15 ans. Pendant la durée de son génie, la furie des peuples parut s'organiser. La tempête elle-même reçut ses ordres. Lentement, on se reprit à croire au beau temps, à la paix. Puis on la désira, on l'aima, on finit par l'adorer, comme on avait adoré la mort 15 ans plus tôt. Assez vite, on se mit à pleurer sur le malheur des tourterelles, avec des larmes aussi réelles, aussi sincères que les injures dont on criblait la veille la charrette des condamnés. On ne voulut plus savoir que douceurs et tendresses. On proclama sacrés les épouses attendries et les mères attentives, avec autant de déclamations qu'il en avait fallu pour décapiter la reine. Le monde voulait oublier. Il oublia. Et Napoléon, qui persistait à vivre, fut enfermé dans une île avec un cancer. Les poètes réorganisèrent leur cohorte alarmée. 100 milliardises furent dites en un jour de printemps pour la volupté des âmes sensibles. On créait avec autant d'outrance qu'on avait détruit. Un souffle de tendresse caressa les tombes innombrables. La clochette ne quitta plus le cou des petits moutons. Sur tous les ruisselets, des vers furent murmurés. Il ne fallait pas plus d'une marguerite déclose pour qu'une demoiselle vraiment sentimentale fondît en pleurs. Et pas plus que cela, pour qu'un homme de bien en tombât amoureux pour la vie. C'est vers cette époque de convalescence, dans une des villes les plus colorées du monde, que naquit Ignaz Philipp Semmelweis, 4e fils d'un épicier, à Budapest sur le Danube, dans le profil de l'église Saint-Étienne, au cœur de l'été, exactement le 18 juillet 1818. Tête du jury, donc, en lisant ces étonnantes premières pages qui plantent un sanglant décor, tracent un croquis pour le moins ironique des trois décennies séparant la Révolution française de la naissance du petit Ignace aux confins de l'Europe, dans ce qui n'était pas encore la ville réunifiée de Budapest. Incipit sans doute écrit avec trop de juvénile emphase, pour reprendre le mot de Romain Rolland, mais qui m'intéresse aujourd'hui à plus d'un titre. Je laisse aux Guillaume, Itohan et autres néocritiques catalittéraires le soin de justifier le jugement porté par Romain Rolland. Qu'ils nous mettent cependant d'abord en évidence tous les procédés rhétoriques traditionnels soigneusement appliqués par Destouches. De l'amplification épique obtenue par tout un arsenal d'hyperboles, de métaphores, de métonymies, de comparaisons chargées ici d'homéothéleutes, là d'assonances ou autres allitérations, plus loin ces sarcastiques périphrases aux accents nettement voltairiens, ces hémistiches rédigées sur le plus classique des rythmes ternaires. Bref, qu'ils me pondent leurs commentaires, j'ai hâte de corriger leurs petites copies. Guillaume, je te promets même une petite gommette si tu me déniches les petites erreurs de concordance de temps que commet notre trentenaire carabin. Alors oui, bien sûr, l'accumulation de procédés littéraires, même employés aussi habilement, ne fait pas encore un style, tant s'en faut, mais elle marque assurément le départ d'un projet littéraire dans le chef de notre Louis. Pour les anti-Guillaume, je voudrais mettre en évidence deux détails, parmi d'autres, qui me prouvent qu'au fond, Céline n'a fait toute sa vie que retravailler certains motifs sur le métier de sa dentelle. Je ne reviens pas sur son sarcasme, classique chez des auteurs comme Bernanos ou Drieu-La Rochelle, quand il faut évoquer la déchéance de la France depuis l'assassinat de son serrurier en 1793. Les lecteurs de Voyage au bout de la nuit reliront l'extraordinaire discours du professeur Princhard. La comparaison avec l'incipit de Semmelweis est éclairante à bien des égards. Non, aujourd'hui on examine deux détails. Le premier, c'est ce soupçon qui hante le cuirassier Destouches depuis 1914 et qui laisse déjà, ici, paraître. À savoir que la guerre est un phénomène récurrent, cyclique, non seulement parce qu'en temps de paix, les hommes s'ennuient, mais aussi et surtout parce qu'elle répond à un désir inconscient chez eux. L'histoire, avec sa grande hache, comporte ainsi régulièrement de ces moments où nous sommes aussi contents de mourir que de vivre. Notre proto-Céline fait du reste une comparaison avec les préliminaires de l'acte sexuel qui laisse bien entrevoir à quel niveau du psychisme humain se situe ce tropisme meurtrier. Je cite « Comme l'amoureux caresse d'abord la chair qu'il convoite et pense à demeurer longtemps à ses aveux, puis malgré lui, se hâte. Ainsi, l'Europe voulait noyer dans une horrible débauche, etc. » Aucune surprise donc si 3 ans plus tard, Céline, en découvrant les essais de psychanalyse de Freud, publiés par De Noël en 1927, ne tombe en arrêt devant sa théorie sur l'instinct de mort. Cette impatience quasi amoureuse pour le néant, cette intuition qu'il exprimait déjà dans son Semmelweis, ma foi, c'est un motif qu'on retrouvera évidemment tout au long de Voyage au bout de la nuit, comme dans le reste de l'œuvre. Un exemple parmi d'autres, tiré de l'extraordinaire discours prononcé à Médan le 1er octobre 1933, où Céline avait été invitée par Lucien Descaves pour la commémoration annuelle de la mort de Zola. Je cite « Notre civilisation semble bien coincée dans une incurable psychose meurtrière. Nous ne vivons plus que pour ce genre de redites destructrices. Quand nous observons de quels préjugés rancis, de quelles fariboles pourries peut se repaître le fanatisme absolu de millions d'individus prétendus évolués, instruits dans les meilleures écoles d'Europe, nous sommes autorisés certes à nous demander si l'instinct de mort, chez l'homme, dans ces sociétés, ne domine pas déjà définitivement l'instinct de vie. Allemands, Français, Chinois, Valaques, dictature ou pas, rien que des prétextes à jouir à la mort. Je veux bien qu'on peut tout expliquer par les réactions malignes de défense du capitalisme ou l'extrême misère. mais les choses ne sont pas si simples, ni aussi pondérables. Ni la misère profonde, ni l'accablement policier ne justifient ces ruées en masse vers les nationalismes extrêmes, agressifs, extatiques de pays entiers. On peut expliquer certes ainsi les choses aux fidèles, tout convaincus d'avance, les mêmes auxquels on expliquait il y a 12 mois encore l'avènement imminent, infaillible du communisme en Allemagne. Mais le goût des guerres et des massacres ne saurait avoir pour origine essentielle l'appétit de conquête, de pouvoir et de bénéfice des classes dirigeantes. On a tout dit, exposé dans ce dossier, sans dégoûter personne. Le sadisme unanime actuel procède avant tout d'un désir de néant, profondément installé dans l'homme, et surtout dans la masse des hommes. Une sorte d'impatience amoureuse, à peu près irrésistible, unanime, pour la mort. Avec des coquetteries, bien sûr, 1000 dénégations, mais le tropisme est là, et d'autant plus puissant qu'il est parfaitement secret et silencieux.
Vous qui, par vos livres, faites figure de prophète et d'apocalypse, est-ce que vous croyez que le ciel va vraiment s'obscurcir? Est-ce que vous croyez que cela va aller mal pour les hommes? Enfin, dites-nous, si vous voulez, comment vous voyez l'avenir immédiat?
Si tous les hommes ne voulaient pas aller à la guerre, c'est très simple, ils diraient « je n'y vais pas ». Mais ils ont le désir de mourir. Il y a un désir, il y a un tropisme chez l'homme. Par exemple, quand vous voyez les accidents d'automobile arriver, ne croyez pas que ce soit tous involontaires. Il y a là-dedans, il y a des vicieux, il y a des gens qui vont vraiment dans l'arbre. Évidemment, le bonhomme ne monte pas en auto en disant « je vais me précipiter contre un Troen ». Mais l'envie est là, n'est-ce pas? Et ça, je l'ai observé moi-même à plusieurs reprises, particulièrement chez les chirurgiens, des gens distingués. Je les vois me conduire leur voiture, n'est-ce pas, d'une façon qui est suspecte. Et ils vont. Tous les hommes de la Terre n'ont qu'à aller à la mairie dire « moi, vous savez, je vais pas à la guerre ». Ben, il n'y aura pas de guerre, hein. Si donc ils la conservent, c'est parce qu'ils aiment ça. Ce désir...
Le besoin de destruction.
Ben, disait Montluc, maréchal d'Henri IV, n'est-ce pas, « Seigneurs et vous, capitaines, qui mesez les hommes à la mort, car la guerre n'est pas autre chose. »
Voilà, c'était le premier détail, le premier motif que je voulais en quelque sorte mettre en évidence, Guillaume. T'as-tu compris? Ce muet amour pour la mort que tu nourris silencieusement dedans tes instincts, le docteur Destouches le met déjà en lumière dès l'entame de son Semmelweis, soit presque 10 ans avant Voyage au bout de la nuit. Paranoïaque, le Destouches, à toi de méditer. Le second détail qui m'intéresse dans ces 3 premières pages est assurément plus léger. Il ne laisse cependant pas de m'amuser, quoiqu'il soit, je le concède volontiers, passablement anecdotique. Destouches écrit ironiquement à propos du Napoléon exilé sur son île de Sainte-Hélène en 1815, je le cite, « Et Napoléon, qui persistait à vivre, fut enfermé dans une île avec un cancer. » Irrésistible, cet humour. Enfin, pour moi. Ça me rappelle vaguement le ton de Voltaire dans son Candide, je trouve. Tu me diras en commentaire si je suis dans le bon, Guillaume. Napoléon enfermé dans une île avec un cancer. D'Henri Godon, Céline aura cette petite moquerie contre le journaliste et collaborateur Pierre-Antoine Cousteau. Oui, le grand frère du célèbre commandant. Je le cite. Est-ce que le Ténia était sûr que je touchais de l'argent des Allemands? Ça l'a-t-il empêché de l'écrire, l'affirmer dans les temps modernes pour être lui sûr qu'on me fusillerait? Au bougre que non. Et le Cousteau, du journal Rivarol et de la propagande, tout aussi accusateur, lui, déjà tout pourri de cancer, son anus sous le bras, il est condamné à mort comme employé de la Staffel, donc extrêmement bien renseigné. Ne jurait-il pas qu'il n'avait rencontré dans tous les services de plus pires vendus que moi? Là, mes Cousteaux, rescapés comment? Oh, pas que lui, sans autre. Fin de citation. Enfermé dans une île avec un cancer. Ça, c'est du Destouches. Tout pourri de cancer, son anus sous le bras. Ça, c'est du Céline. Cette construction a fait depuis Flores. Ainsi, Jacques Brel, dans son Knock le Zout Tango, chantait de manière très célinienne, je le cite. Il pleut sur Knock le Zout. Ce soir, comme tous les soirs, je me rentre chez moi, le cœur en déroute, et la bite sous le bras. Fin de citation. Plus récemment, Sandra Van Bremersch, dans son premier roman publié en 2021, « La Dame couchée », décrivait ainsi sa première arrivée à Meudon, au 25 terre de la route des gardes, chez la veuve Lucette. Je la cite. « Je venais donc, avec mes sourires sous le bras, et toute ma gentillesse en bandoulière, gonflée de ma nouvelle mission, faire plaisir. Que n'ai-je un instant pas eu la juste vision de ce qui m'attendait? Sinon, c'est sûr, j'aurais pris mes jambes à mon cou. Fin de citation.
Les soirs où je suis argentin, je m'offre quelques argentines, quitte à cueillir dans les vitrines des jolis quartiers d'Amsterdam, des lianes qui auraient ce teint de femme qu'exportent vos cités latines. Ces soirs-là, je les veux félines, avec un rien de brillantine, collée aux cheveux de la langue. Elles seraient fraîches comme des mangues et compenseraient leur maladresse à coups de poitrine et de fesses. Mais ce soir, y a pas d'Argentine, y a pas d'espoir, et y a pas de doute, non. Ce soir, il pleut sur Knokke-le-Zoute, ce soir comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras. Les soirs où je suis espagnole, petite fesse, grande bagnole, elle passe tout à la casserole. Quitte à pourchasser d'Hambourg les Carmencitas de Faubourg qui nous reviennent de Vérole. Je me les veux fraîches et joyeuses, bonnes travailleuses, sans parlotte, mi-andalouse, mi-onduleuse. De ces femelles qu'on gestapote parce qu'elles ne savent pas encore que Franco est tout à fait mort. Mais ce soir, y a pas d'espagnol, y a pas de casserole, y a pas de doute, non. Ce soir, pleut sur Knokke-le-Zoute, ce soir comme tous les soirs, je me rends chez moi, cœur en déroute, et la bite sous le bras.
Revenons à Budapest, où nous mène notre livre. L'âme d'un homme y va fleurir dans une pitié si grande, d'une floraison si magnifique, que le sort de l'humanité en sera par elle adouci pour toujours. Attendons que paraissent les jours que nous voulons dans l'enceinte du passé. L'aube d'abord. Vraiment, c'est chaque fois la même infirmité, le même entêtement stupide dans la routine aveugle et sourde autour de l'enfance d'un être exceptionnel. Personne ne se doute. Personne ne les aide. L'âme des gens est-elle donc si loin de la vie de tous les jours? À Budapest, c'est le quatrième fils, Philippe, qui est prédestiné. Mais sa mère ne s'en doute pas plus que les autres. C'était, nous dit-on, une femme laborieuse, tôt mariée, tôt levée, jolie aussi, infatigable, qu'une maladie brutale coucha pour toujours dans l'hiver de 1846. Avant ce grand malheur, on chantait beaucoup dans cette maison. On y criait aussi. 8 enfants.
Semmelweis grandit dans le quartier de Tabane, à Buda. À l'époque de Semmelweis, c'est un quartier qui est extrêmement multiethnique, avec une population germanophone très importante, une population ethniquement allemande. D'ailleurs, Semmelweis est issu d'une famille allemande, de commerçants. Et qui s'entremêle, cette population, avec une population serbe. D'ailleurs, on a parlé de Tabane comme quartier serbe, des Croates, des Hongrois aussi. Donc, il grandit dans ce milieu extrêmement multiculturel. Parce qu'il faut imaginer aussi que Pécht et Buda, c'est une ville qui n'est pas majoritairement madiarophone à l'époque.
La famille Semmelweis habitait depuis 2 siècles, dans une région frontalière entre l'Autriche et la Hongrie. Ils étaient essentiellement des commerçants. Je ne sais pas pour quelle raison le père d'Ignaz, Semmelweis Józef, Joseph Semmelweis, est déménagé, est venu à Buda. On ne dit pas à cette époque la Budapest parce que les deux parties étaient complètement séparées et il n'y avait pas de pont fixe qui reliait. Donc il a décidé de venir à Buda. Il s'est installé. Et il a ouvert son commerce, c'était un commerçant, un épicier. Mais il ne faut pas imaginer un épicier du coin qui vend la farine et du sucre. Il faut imaginer plutôt une épicerie de style bon marché. C'était une grande épicerie, il s'appelait l'éléphant blanc. On y vendait des aliments, des vins, des vêtements. Il y avait des tailleurs qui faisaient des vêtements sur mesure, organisaient des voyages, des transports. Donc, ça marchait très bien pour le père.
L'épicerie marchait bien. Les petits Semmelweis furent bien nourris. Philippe eut un jour 4 ans, puis 10. À tout le monde, en tout lieu, il paraissait heureux, sauf à l'école. Il n'aimait point l'école. Et par cette aversion, désespérait son père.
Le petit est allé dans l'école du quartier, qui était une école hongroise. Donc il apprenait le hongrois dans la rue, aussi bien que le serbe. Il y avait beaucoup d'orthodoxes serbes dans le même quartier. Et dans ces écoles-là, il apprenait le hongrois. À la maison, il parlait l'allemand. Apparemment, il était un très bon élève. Et son père l'inscrit dans le lycée chez les piaristes. Moi-même, j'ai passé 4 années chez les piaristes et j'en garde un très bon souvenir. Apparemment, il faisait des études tout à fait correctes chez ses frères et il appréciait le renseignement. Et donc, Semmelweis a passé 2 années et son baccalauréat chez eux avec des mentions tout à fait correctes.
Philippe aimait la rue. Les enfants, plus encore que nous, ont une vie superficielle et une vie profonde. Leur vie superficielle est bien simple. Elle se résout à quelques disciplines. Mais la vie profonde du premier enfant venu est la difficile harmonie d'un monde qui se crée. Il doit entrer dans ce monde, jour après jour, toutes les tristesses et toutes les beautés de la terre. C'est le travail immense de la vie intérieure. Que peuvent les maîtres et leur savoir pour cette gestation spirituelle, cette seconde naissance dont tout est mystère ? Presque rien. L'être qui vient à la conscience a pour grand maître le hasard. Le hasard, c'est la rue diverse et multiple de vérités à l'infini, plus simple que les livres.
La Pêche Bouddha est une ville qui est en train de connaître ses premières mutations importantes. Et c'est une ville qui grandit, qui est en train de se développer. C'est vraiment le moment où entre sur l'arène politique aussi tout simplement le libéralisme. On entre dans une période que l'historiographie hongroise appelle l'ère des réformes. Il y a une effervescence politique, c'est le moment où on invente la presse littéraire, c'est l'époque du romantisme, il y a l'Académie des sciences qui est fondée en 1825. C'est donc dans cet univers multiethnique, libéral, intéressé par le progrès, que grandisse Semmelweis.
La rue, chez nous. Que fait-on dans la rue, le plus souvent ? On rêve. On rêve de choses plus ou moins précises. On se laisse porter par ses ambitions, par ses rancunes, par son passé. C'est un des lieux les plus méditatifs de notre époque. C'est notre sanctuaire moderne, la rue. En Hongrie, pays mélodieux, pays de théâtre, peuplé par une race plus démonstrative que la nôtre, la musique jaillit au grand air. Sans effort. C'est de chansons et non d'école que le petit Semmelweis, le nôtre, était fervent. La tentation était grande et multiple. Il y avait à cette époque, surtout à l'heure du déjeuner, presque autant de chanteurs populaires à Bouddha que de Porsche dans la rue. Pourquoi ne pas s'arrêter là, un instant ? Entre les flaques de la dernière pluie, le chanteur vêtu de hardes bariolées s'arrête, se gratte sans retenue, regarde le monde passer à travers sa misère. Il a une mauvaise petite idée d'envie pour tous ces gens qui se pressent vers leur déjeuner, lui qui n'a pas encore le sien, ni dans son ventre, ni dans sa poche. D'un sac pisseux, il sort une guitare aux cordes lasses. La chose gémit sous ses doigts sales. Il regarde en haut, le vent. De sa voix rance, il émet quelques notes qui se cherchent. On attend, d'autres aussi avec nous, et le petit Philippe, autrefois. Un cercle se forme qui s'agrandit en rongeant le trottoir, en éloignant les voitures qui passent sur la chaussée. C'est un cercle enchanté. Ça y est, allons-y. Le vilain gratte-note veut sortir de la vie. Avec quoi ? Avec ça. On verra bien, suivons-le. Un bout de chemin dans le rêve. Midi passe, et le groupe de ces gens chante dans un charme que l'appétit ne parvient pas à rompre. Ces chansons-là ne sont ni gaies ni tristes. Elles sont riches de la magique substance, ou bien elles en sont dépourvues. Celles qui sont pauvres, on les oublie, mais celles qui sont riches vont au cœur. Aussi bien que la grande musique, elles font comprendre le divin. Seulement pour la grande musique, il faut être au moins un peu instruit, musicien. Pour aimer la chanson du peuple, la vraie, il suffit d'aimer l'amour, d'avoir du sentiment. Et puis les paroles, ça aide. Écoutez dans l'âme, toute surprise, toute joyeuse d'être libérée d'un peu d'ombre, le charme de ces quatre notes assemblées. Quatre notes lumineuses. C'est le don de courage, des forces d'espérance que le talent donne à ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas assez joyeux, assez croyants, assez sincères, assez forts pour être heureux. Mais la musique s'éteint, le cercle se disperse, et le chanteur, un peu plus las, quête son déjeuner. Tout le monde a faim. Le doux mystère se fane, à regret, dans le cœur de chacun. La rue retombe au niveau du ruisseau. L'église intime se ferme. Les orgues se sont tus. C'est plus triste qu'avant. Ne demeurent que ceux que le destin désigne pour la messe éternelle de l'amour infini. Ils ne forment qu'une toute petite chapelle de la clarté dans l'espace et le temps. C'était donc le deuxième extrait que je voulais étudier avec toi, Guillaume. Il me semble tout à fait indéniable que Destouches trouve ici les mots les plus délicats pour exalter l'enfance de Semmelweis. Chapelle, église intime, sanctuaire, amour infini, mystère, seconde naissance, gestation spirituelle, etc. Tous ces mots relèvent évidemment du champ lexical de la religion chrétienne, dont Céline, faut-il le rappeler, reçut le greffe à l'âge de sa première communion, lors de son passage à l'école catholique de Saint-Joseph des Tuileries, en 1905. Ces trois pages sont donc ainsi colorées d'un accent nettement religieux, qui ne laisserait d'étonner si l'intention de Céline ne résidait pas justement dans la volonté de placer la vie exemplaire et tragique de Semmelweis dans la droite ligne des anciennes hagiographies, tout à l'honneur des grands saints du calendrier romain. Ce qui me surprend également dans ces premières pages, c'est d'y découvrir que la chanson y pointe déjà le bout de ses notes, ainsi dire. Sans s'attarder à compter par le menu l'enfance du génial inventeur hongrois, l'auteur passe en quatrième vitesse sur les premières années à l'épicerie parentale, effleure à peine le personnage de la mère, ne souffle quasi mot du père. Philippe eut un jour 4 ans, puis 10. Manifestement, Destouches décrète une impasse à peu près totale sur les détails réalistes de son récit. Il lui importe plutôt d'en arriver tout de suite à l'essentiel. Cette rue à la majuscule étrange, rue diverse et multiple de vérités, plus simple que les livres. Et dans cette rue, des chansons. Je ne m'attarderai pas aujourd'hui sur ce motif de la rue, ce sanctuaire moderne qui inspirera d'incroyables variations à l'auteur de Voyage au bout de la nuit. Non, je préfère m'étonner ici dans les premières pages de ce qui se présente comme une thèse de médecine, de cette place incroyable accordée à la chanson. Hongrie mélodieuse, Budapest chantante au soleil de midi, maison familiale livrée au déferlement des petits airs, comme plus tard Céline cessera de le dire de son passage à Choiseul.
Très souvent dans votre livre, vous rappelez au lecteur que vous êtes né passage Choiseul, c'est le mot raffinement qui me fait penser à cela. Pourquoi éprouvez-vous le besoin de le dire et de le répéter? Vous pensez que c'est encore aujourd'hui quelque chose d'important pour vous, pour votre, la compréhension
oui,
de votre...
Oui, c'est ce que me disait Descartes. Il me disait, c'est vraiment très curieux, cet homme qui a vécu passage Choiseul, il faut avouer que ça vous marque aussi, pas tant que la prison, mais ça vous marque. Je n'avais aucun endroit où aller jouer, où vont les gosses. Et nous avions dans le passage Choiseul 360 becs de vase qui marchaient jour et nuit, vous le savez. Et nous avions les petits chiens qui venaient faire leurs besoins. Et puis nous avions des chansons, chose assez curieuse. Je peux dire que j'ai assisté à la fin des chansons. Au début, avant la guerre, 14, chaque fois qu'il entrait un arpège ou une midinette, comme elle s'appelait, au début du passage, elle commençait à chanter. Elle chantait pendant tout le passage, toute sa durée de traversée du passage. Et puis après 14, on n'a plus chanté dans le passage. C'est un signe des temps. C'est tout ce qu'on avait comme distraction. C'est la chanson des petits apprentis. Et puis des midinettes. C'est à peu près tout.
Héritier de toutes ces strates superposées et du génie particulier de sa race, le petit Ignace n'a qu'une passion, la chanson. Comme l'écrit Destouches, c'est de chansons et non d'école que le petit Semmelweis était fervent. S'il est fervent de chansons et non des leçons données par le maître d'école, comme l'imagine le romancier, c'est évidemment qu'à l'époque déjà, dans la sensibilité célinienne, enfance et chansons marchent de concert. Tu me citais les beaux draps, Guillaume, avec éloge, ce en quoi tu as parfaitement raison, et tu ne vois pas l'étroite relation que dans ces pages déchirantes sur l'enfance, ce pamphlet entretient avec ici la thèse médicale.
Oh, c'est pas que je vienne dire du mal des beaux-arts et de leur enseignement. Je trouve rien de plus essentiel. Donnez-moi le privilège d'écrire les chansons d'un peuple, et je serai bien au-dessus de celui qui fait les lois. Voici le précieux adage tout à méditer. Le salut par les beaux-arts. Au lieu d'apprendre les participes, et tant que ça de géométrie et de physique pas amusante, y a qu'à bouleverser les notions, donner la prime à la musique, au chant en chœur, à la peinture, à la composition surtout, aux trouvailles des danses personnelles, aux rigodons particuliers, tout ce qui donne parfum à la vie, guilleretterie jolie, porte d'esprit à fleurir, enjolive nos heures, nos tristesses, nous assure un peu de bonheur, d'enthousiasme, de chaleur qui nous élève, nous fait traverser l'existence, en somme, sur un nuage. C'est ça le bon Dieu à l'école, s'enticher d'un joli bel art, l'emporter tout chaud dans la vie. Le vrai crucifix, c'est d'apprendre la magie du gentil secret. Le sortilège qui nous donne la clé de la beauté des choses, des petites, des laides, des minables, des grandes, des splendides, des ratées, et l'oubli de toutes les vacheries. C'est de ça dont nous avons besoin, autant, bien autant, que de pain bisque, de beurre en branche ou de pneumatique, qu'on me dilacère si je déconne, et comment on apprend tout ça, en allant longtemps à l'école, au moins jusqu'à 15-16 ans, qu'on en sorte tout imprégné de musique et de jolis rythmes, d'exemples exaltants, tout ensorcelé de grandeur, tout en ferveur pour le gratuit. La ferveur pour le gratuit. Ce qui manque le plus aujourd'hui, effroyablement, le gratuit seul est divin. Plus de petits noyaux crevassés, issus des concours, qui peuvent plus s'éprendre de rien, sauf des broyeuses concassières à 80 000 tours minute.
Au commencement, était, est et toujours sera pour Céline le chant de l'âme, pour tout dire. Seul ce chant enchante, seul le charme de l'âme populaire peut réunir les hommes dans le cercle enchanté d'une fragile, temporaire et miraculeuse véritable communauté. Communauté de la race, réunie par le chant. Le mot « charme », en latin « carmen », désigne ce chant magique, corphée, module pour ensorceler hommes, bêtes et choses, les faire danser à mesure. Pour Céline, c'est ce chant qui nous fait sortir, ou plutôt jaillir, de l'autre côté de la vie. Je recite. Écoutez dans l'âme toute surprise, toute joyeuse d'être libérée d'un peu d'ombre, le charme de ces quatre notes assemblées. Quatre notes lumineuses. C'est le don de courage, des forces d'espérance que le talent donne à ceux qui ne savent pas, qui ne sont pas assez joyeux, assez croyants, assez sincères, assez forts pour être heureux. Ce sont là quelques lignes parmi les plus étonnantes que Céline ait jamais écrites. Pour ceux qui sont plus habitués à la verve ravageuse du reste de l'œuvre célinienne, la surprise n'est pas mince de se retrouver ici soudain devant des formules telles que ce don de courage, ces forces d'espérance, ce doux mystère de la chanson, ce sanctuaire musical de l'église intime, ou encore cette messe éternelle de l'amour infini qui vient d'être chantée dans cette rue de Budapest. Manifestement, dans l'esprit de notre proto-Céline, la chanson est clairement désignée comme source salvatrice, à la fois magique et mystique. Qu'est-ce que la chanson ? Textuellement, la contemplation des sommets spirituels qui s'élèvent de l'autre côté de la vie. 8 ans plus tard, l'épigraphe de Voyage au bout de la nuit conclura avec la même formule. Je cite. Voyager, c'est bien utile. Ça fait travailler l'imagination. Tout le reste n'est que déception et fatigue. Notre voyage à nous est entièrement imaginaire. Voilà sa force. Il va de la vie à la mort. Hommes, bêtes, villes et choses, tout est imaginé. C'est un roman, rien qu'une histoire fictive. Littré le dit qui ne se trompe jamais. Et puis d'abord, tout le monde peut en faire autant. Il suffit de fermer les yeux. C'est de l'autre côté de la vie. Ainsi, on le voit dès ses débuts en écriture, dès Semmelweis, Guillaume, c'est bien la chanson. La pauvre petite chanson des rues qui sert de modèle esthétique à l'écriture célinienne. Ce chant de la race, cette chanson populaire, semble bien présider à la destinée du grand médecin dans l'esprit de notre Louis. Il faut encore remarquer ceci que je crois fondamental. La chanson se pose, dès ses premières pages, dans une perspective clairement politique. Elle fleurit dans la rue, explicitement présentée comme un lieu loin des livres. Le petit Philippe sèche l'école pour aller écouter ses chansons populaires. Cet anti-intellectualisme manifeste, ce culte de la Robinsonnade, devrait frapper l'esprit de notre Guillaume. Destouches envoie déjà, dès sa thèse médicale, des piques contre l'école officielle. De toute évidence, il prend soin de la discréditer dans le chef du lecteur. Ainsi, par exemple, les chanteurs sont dans les rues de Bouddha, tandis que quelques lignes plus loin, le narrateur évoque les années du jeune Semmelweis au lycée de Pest. Ces deux manières d'appeler la capitale de la Hongrie correspondent évidemment à la partition en vigueur du temps du petit Ignace, puisque Bouddha et Pest ne fut réuni qu'en 1873. Mais Céline en tire aussi une opposition significative. Bouddha, c'est la ville des chanteurs, tandis que Pest, c'est la ville des lycéens. Cette réflexion sur l'école, sur le savoir livresque, mais aussi sur la contre-culture chansonnière, tiendra quelques années plus tard une place majeure, ouvertement politique cette fois, dans les Beaux-Draps. Les prémices que fournit Semmelweis sont donc nombreuses. La dernière, mais non la moindre, car elle relie in fine tous les fils de cet écheveau, est celle d'une certaine conception de la littérature. Comment comprendre que cet épisode fantasmé de la vie du jeune Semmelweis occupe dans le début de l'œuvre une place si importante, si ce n'est parce qu'elle constitue en soi une approche non pas biographique, mais déjà autobiographique. Plus que celle d'un homme, c'est la destinée d'un type qui est ici décrite. Celle du grand homme en réaction contre les horreurs de son époque, qui détient seul la vérité, et se trouve placé par ses fonctions et sa sensibilité du côté de la vie. L'image du médecin, mais aussi celle de l'écrivain, telle que Céline ne cessera de la proclamer, répondent clairement à cette évocation. Tous deux plongent leurs mains, l'un dans les ventres des femmes, le second dans l'encre et le papier, aux sources de la vie. La chanson réalise, bien plus que l'école ou que les livres, cette gestation spirituelle, cette seconde naissance, dont tout est mystère. C'est la chanson qui forme le jeune Semmelweis, qui lui fait toucher du doigt ce que l'auteur, dans une suggestive formule, nomme le travail immense de la vie intérieure. Dans cette expression se nouent les figures de l'enfant à la recherche de lui-même, de la chanson qui lui fournit dans la rue la clé musicale de la vie intérieure, l'aliment spirituel indispensable à sa maturation, mais aussi de la femme en travail, qui s'apprête à donner la vie, du médecin courageux qui doit la libérer, et enfin de l'écrivain, qui l'exaltera contre les puissances de la mort. La littérature est pour Céline ce voyage vers la couffins intérieure, et ce travail incessant qui permet de délivrer la vie des profondeurs intimes, tout comme un médecin délivre une femme de son nouveau-né. La chanson, comme la pratique médicale, comme celle de l'écrivain, se trouve investie des mêmes pouvoirs magiques. Elle touche toutes trois au tréfonds de l'être, au mystère de la création.
C'était un fils de petit bourgeois. Sa mère tenait un magasin de dentelles et dans le passage de Choiseul, c'est-à-dire en plein centre de Paris.
Et choses importantes au milieu des théâtres et des.
Ouais, hein, donc, au milieu, voilà. Dans le quartier, de l'opéra comique, de tout ça, pour lui, c'est le pain quotidien. Il habitait dans le passage Choiseul même. Il y avait le théâtre d'Offenbach, les Bouffes Parisiens. Donc tout ça, c'était, ça a baigné son enfance, mm-hmm. Et c'est ce qui explique qu'il en reparle si souvent. On a pu faire une étude complète sur les chansons et les airs d'opéra dans l'œuvre de Céline pour montrer à quel point ils étaient.
Il est né, histoire comme ça de se mettre un peu les dates en tête. Il est né en 1894.
Il est né en 94, ce qui veut dire que la date principale c'est 1914. C'est quelqu'un qui a eu 20 ans en 1914. Mm-hmm. Auparavant, il y a cette origine modeste. Un peu coincé entre le prolétariat proprement dit et puis les clientes du magasin, enfin une espèce de petite bourgeoisie. Et puis il y a eu le grand fait qui est l'abandon, enfin ses parents lui ont fait quitter l'école communale au certificat d'études, c'est-à-dire ne l'ont pas laissé entrer au lycée, ne l'ont pas laissé faire des études secondaires. Et là aussi c'est une importance capitale parce que ça oriente toute sa création vers autre chose que le français écrit, vers tout ce que représente l'éducation, l'instruction du lycée.
Et vous dites qu'il y a deux choses qui sont très importantes, justement. Mais dans l'une de ces choses, c'est la musique et le partage du goût musical.
Oui, parce que c'était une époque, on a du mal à imaginer ça maintenant, même peut-être dans votre cadre. On a du mal à imaginer, c'était l'époque où les chansons étaient chantées dans les rues et elles faisaient partie du tissu de la vie quotidienne. Et elles ne se renouvelaient pas si souvent, il y en avait probablement tous les ans, mais elles ne se renouvelaient pas au sens où se renouvellent maintenant les chansons et où on peut vous dire, ah, on a la nostalgie de 2005 ou de 2004, etc. Ouais. Là, c'était quelque chose de stable qui s'installait. Il y avait les chanteurs qui chantaient dans les rues, les passages, mmh. Et puis après, ils vendaient les chansons imprimées, paroles et musique, sur une feuille pliée, etc. Et tout Céline est imprégné de ce genre de choses.
Ce qu'on voit beaucoup au cinéma aussi dans les films.
Et c'était, comment dirais-je, une espèce de mot de passe entre les gens qui vivaient le même temps, de pouvoir rappeler telle chanson qu'on avait entendue, quand c'était, etc. Ça faisait partie du lien social. Et puis pour lui, l'intérêt, c'était que ça représentait une culture populaire, une espèce de contre-culture par rapport à la culture de l'école. Hein, et lui oui, qui avait qui n'a pas, à la fois été privé, mais avait refusé aussi, il avait commencé, il a toujours insisté sur l'importance capitale de commencer à travailler à 13 ans, comme commis, maltraité, etc. C'est le point de départ de sa vie.
L'amour, vois-tu, moi, je m'en fiche, ce n'est beau que dans les chansons. Si quelque jour je deviens riche, on m'aimera bien sans façon. J'aurai vite une châtelaine, si j'avais au moins un château, au lieu d'un vieux tricot de laine et des bottines prenant l'eau. Attention les cœurs, sois folle ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Ton monde est la bienvenue, fais-moi la charité. À mon ticket, sois folle ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Reste close et les dessous ne tombent pas. J'attends cependant peu de choses. Jette-moi ce que tu voudras. Argent, pain sec ou vieille rarde, tout me fera plaisir de toi. Et je prierai Dieu qu'il te garde un peu mieux qu'il n'a fait pour moi. Alors, sois folle, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Ton offrande est la bienvenue, fais-moi la charité. Sois folle, ma chère inconnue, pour qui je suis souvent chantée. Devant moi, sois la bienvenue.
Mais dans la contemplation des sommets spirituels qui s'élèvent de l'autre côté de la vie, incertains au regard trop précis des hommes, n'avons-nous pas perdu la route de tous les jours? Pourtant les événements s'y pressent, avec chaque âge, et ce sont eux qui doivent témoigner dans leur simple langage de la force et de la beauté dont chaque homme dispose dans le secret de son destin. Ceux qui surgissent dans les premières années de la vie du petit Philippe ne nous apprennent presque rien de précieux. C'est sans entrain qu'au lycée de Pécht, où son père le fait admettre, il apprend les règles du latin. Sans grand succès non plus, si on s'en rapporte au palmarès de cette époque. La classe, nous le savons, y était sévère. Cicéron difficile, la jeunesse incomprise. 2 ans durant, Philippe repassa le beau pont du Danube tous les dimanches, s'en allant déjeuner chez ses parents, dont il ne manquait pas de recevoir mains encouragements et conseils. Les vues de l'épicier étaient ambitieuses. Ne voulait-il pas que Philippe devint auditeur à l'armée de François d'Autriche? Certes, c'était un emploi très lucratif, enviable, rempli par des juges à cheval, arbitre dans les délits qui s'élevaient à chaque instant entre les bandes en campagne et les propriétaires frustrés et mécontents. Mais il y a loin du désir d'un père au destin de son fils. Tant bien que mal, Philippe termina ses premières études, et le 4 novembre 1837, il quittait Budapest pour aller acquérir à Vienne ses titres de droit autrichien. La première impression qu'il eut de cette ville fut franchement mauvaise. « Mon bon ami, écrit-il à Markusowski le lendemain de cette arrivée, comme je regrette notre cité, nos jardins, nos promenades. Rien, ici, ne m'est agréable. Jamais il n'aimera Vienne. » Les véritables raisons de cette antipathie sont encore sourdes, mais la ville lui formulera, plus tard, précisément. Cependant, dès son premier séjour à Vienne, il s'y sentit étranger, destiné à déplaire. Tous ses sentiments restèrent hongrois, impénétrables. Longtemps il garda cette foi absolue dans les siens, jusqu'au jour où ses compatriotes eux-mêmes se tournèrent contre lui. Sans doute était-il écrit qu'il serait malheureux chez les hommes. Sans doute pour les êtres de cette envergure, tout sentiment simplement humain devient une faiblesse. Ceux qui doivent créer des choses admirables ne saurait demander à une ou deux affections particulières les forces affectives dont s'embrase leur formidable destinée. Des liens mystiques les relient à tout ce qui existe, à tout ce qui palpite, les garde et souvent les enchaîne dans un enthousiasme sacré. Jamais ils n'en viennent, ainsi que la plupart d'entre nous, à considérer la femme ou l'enfant que nous aimons comme la partie la plus vivante de notre raison d'être. Enfin, Semmelweis puisait son existence à des sources trop généreuses pour être bien compris par les autres hommes. Il était de ceux, trop rares, qui peuvent aimer la vie dans ce qu'elle a de plus simple et de plus beau, vivre. Il l'aima plus que de raison. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse, la vérité, c'est la mort. Quant à la médecine, dans l'univers, ce n'est qu'un sentiment, un regret, une pitié plus agissante que les autres, d'ailleurs presque sans force, à cette époque où Semmelweis l'abordait. Il alla vers elle, tout naturellement.
Je crois que ça a commencé à se gâter, c'est quand il a quitté la Hongrie et qu'il est allé à Vienne.
Puis il va prendre le chemin de Vienne, parce que si on veut faire des études, si on veut faire de bonnes études, eh bien il faut aller à Vienne. À Vienne, il y a les meilleurs professeurs. Par ailleurs, lorsqu'on a étudié à Vienne, on peut exercer sur l'ensemble du territoire autrichien, ce qui n'est pas le cas si on a un diplôme de l'Université de Pest. Et donc, Semmelweis se retrouve à Vienne. Vienne, c'est vraiment le centre.
C'est l'Empire d'Autriche. Le décor est magnifique, il ne va cesser de s'embellir d'ailleurs. Il est magnifique depuis Marie-Thérèse, depuis Joseph, depuis Ferdinand. Une espèce de coulisse gigantesque, baroque et néo-baroque. La ville de Vienne est dimensionnée pour être une capitale mondiale. Et la ville de Vienne reste fidèle au XIXe siècle à cette vieille devise autrichienne qui est « Austria est imperare orbi universo ».
Vienne, c'est the place to be, surtout pour un jeune homme qui veut être au cœur de l'action. La ville en elle-même est magnifique. Semmelweis étudie à l'université de Vienne, qui est la meilleure de la région, et même de tout l'Empire.
Il faut dire que Joseph II a entamé des réformes structurelles dans l'Empire, du point de vue fiscal, militaire, cadastral, mais également scolaire et universitaire, du point de vue sanitaire également, avec la création du Joséphinum, la création du grand hôpital central de Vienne, qui est une matérialisation, une réalisation en acte de cet esprit des Lumières qui, concrètement, se matérialise comme ça, par des institutions de soins, d'enseignement et de recherche.
Le départ de Semmelweis à Vienne était probablement très fortement suggéré par le père. Pour Ignaz, le père a prévu un métier, il devait être juge militaire, comme mon grand-père du reste. Bon. Juge militaire. Il est allé donc faire des études pour avoir cette validité sur l'Empire entier, d'aller faire des études à Vienne. Et au bout d'un an, visiblement, ça n'a pas mordu, ça ne lui a pas plu. Il ne se voyait pas juge militaire et il a bifurqué.
À Vienne, il va faire rapidement partie de cette société étudiante hongroise qui était d'ailleurs dans les sociétés étudiantes non autrichiennes, enfin non allemandes, la plus importante. C'est là où il rencontre ceux qui vont être ses amis et ses collègues. Je pense bien sûr à celui qu'on décrit comme son meilleur ami, Lajos Markuszowski, qui va être un chirurgien. Et donc, il se retrouve dans une sociabilité extrêmement dynamisante, madiarophone, et il suit ses cours en allemand. À l'université à Vienne.
When he went to Vienna, he got caught up with.
C'est là qu'il s'acoquine avec un groupe d'étudiants en médecine, en droit ou qui font des études générales. Ils sont tous originaires de Hongrie et ont donc beaucoup de choses en commun. Ils passent beaucoup de temps ensemble et finissent par devenir amis. L'un des plus proches s'appelle Lajos Markusovski. Il a 3 ans de plus que Semmelweis, mais il va rapidement devenir son meilleur ami. En regardant une photo de cette époque, je dirais que Semmelweis fait très germanique, avec ses cheveux blonds. Il a presque un air féminin sur cette photo. Je pense qu'il avait encore une certaine naïveté, qu'il était encore soucieux de plaire. À ce moment-là, il n'y a encore aucun signe de trouble psychologique chez lui. C'est le moment où Semmelweis va faire une expérience fondatrice. Il s'ennuyait ferme dans ses études de droit et s'en plaignait constamment. Ses amis lui disent « Tu n'as qu'à venir au cours de dissection ». Le cours était assuré par un anatomiste très réputé de l'université de Vienne, le professeur von Beres. Ses copains ont dû le faire entrer en douce car l'entrée était réservée aux étudiants en médecine.
Les autopsies se faisaient en public. Et en fait, c'est quasiment un spectacle. D'ailleurs, on est à un moment donné mannequins dans les foires, on a les fœtus dans des bocaux, enfin, on découvre un peu l'anatomie et les monstruosités de l'anatomie. Et cette autopsie, donc, va se faire, comme il y a des tableaux célèbres en peinture qui le montrent, voilà, devant un amphithéâtre avec, en principe, des étudiants en médecine, mais aussi des gens qui ne le sont pas forcément et qui, donc, vont être frappés par... la pénétration du corps, voir ce qui est caché et les causes de la mort.
Il faut rappeler une chose. C'est à la suite d'un décret du régime austro-hongrois que les professeurs de médecine n'enseignent plus sur des mannequins, mais sur des cadavres. Depuis les années 1838-1839, les étudiants se forment à la morgue en pratiquant quotidiennement des dissections.
Parce que l'Autriche, c'est l'Empire et c'est la création du grand hôpital central de Vienne. Cet esprit des Lumières qu'on invoque beaucoup, et c'est dans une institution comme ça que jeune étudiant et puis le jeune docteur Semmelweis arrive. Une institution où, eh bien, on accouche des femmes, mais aussi on forme de nouveaux médecins en disséquant des cadavres.
À partir du 19e, ça commence un petit peu avant, on s'occupe du corps.
Le nerf tibial.
Et de savoir ce qu'il y a derrière la maladie. On dissèque les cadavres, on essaye de comprendre
la veine
les maladies en observant les corps, et en tout cas en les ouvrant.
Jambes, vue dorsale, et pieds, vue médiale. Sur cette préparation en vue postérieure d'un membre inférieur gauche, les faisceaux médial et latéral du muscle gastrocnémien ont été sectionnés et sont réclinés vers le bas.
Ce qui était un interdit majeur avant. Ça commence avec Bichat.
Elisabeth Roudinesco.
L'histoire des maladies, c'est l'histoire de la vie et de la mort. Autrement dit, la maladie fait partie de l'histoire de la vie, même si elle apporte la mort. Donc on est en pleine expansion d'une médecine scientifique qui va aboutir à Claude Bernard et à Pasteur. Et c'est un moment tout à fait passionnant, ce 19e siècle. En gros, on peut le dire comme ça, la vie et la mort n'appartiennent plus du tout à Dieu, mais à la science.
Semmelweis entre dans la salle. Il y a un monde fou. Von Beres est installé à la table de dissection. Semmelweis est d'abord totalement écœuré par l'odeur putride des cadavres et par les liquides qui s'en échappent. Le formaldéhyde n'existait pas à l'époque et les cadavres étaient probablement conservés dans l'alcool. Mais une fois cette répugnance surmontée, Semmelweis est absolument fasciné par tout ce que montre le professeur von Beres. Les os, les muscles, le système urinaire, le système digestif, le système nerveux. Quand on sort de là, on a une vision complète de l'anatomie, à la fois macroscopique et microscopique.
Thank you.
reprends ton petit crayon. On s'attaque maintenant à l'étude de ce troisième extrait que je viens de lire. Quand Louis Destouches écrit que Philippe Ignace connut des années difficiles au lycée, qu'il termina textuellement, tant bien que mal. Bon, tu peux maintenant mieux cerner, et ce grâce aux intervenants du podcast de Christine Le Cerf, que c'est ici le déjà romancier Céline qui fait œuvre de transposition, qui exploite en quelque sorte l'art du mensonge fictionnel. Mais allons plus avant dans l'analyse. Quand notre carabin écrit « Il y a loin du désir d'un père au destin de son fils », quand il écrit plus bas « Jamais les êtres de cette envergure n'en viennent à considérer la femme ou l'enfant que nous aimons comme la partie la plus vivante de notre raison d'être », ne te vient-il pas un drôle de petit soupçon, Guillaume, que notre Destouches pense ici en réalité à lui-même, qu'il dresse en quelque sorte son propre autoportrait sous les traits du médecin hongrois? On a presque la sensation qu'il se justifie d'avance, dans ces lignes, de l'abandon imminent de sa femme Édith et de sa fille Colette. Et de fait, deux mois après la soutenance de sa thèse, Louis quittera définitivement le domicile conjugal, exactement le 31 juin 1924. J'ai vraiment l'impression qu'il se sent en pleine résonance avec ce confrère hongrois dont il raconte la tragique destinée. On dirait que cette identification l'autorise à se projeter en lui, au plan biographique, même en l'absence d'attestation documentée. Un autre indice sur ceci, plus avant dans la thèse. Céline raconte une anecdote sur Semmelweis. Au moment où, de retour à Budapest lors de la Révolution hongroise, nous sommes en 1848, celui-ci commence à exercer sa pratique. Je cite. Semmelweis avait conquis déjà un certain renom, quand un incident minime, mais burlesque, vint lui causer le plus grand tort. Sur la recommandation d'un de ses amis, on le demande, certains jours, au chevet de la comtesse Gradinich, un des plus grands noms de Hongrie. Le cas n'était pas simple, la malade était illustre, donc un ensemble périlleux pour la réputation d'un médecin. Plusieurs de ses confrères, auparavant consultés, portaient des diagnostics contradictoires. La famille, on le conçoit, était vivement alarmée. Le diagnostic auquel se range Semmelweis après un premier examen de la malade est des plus sombres. Selon lui, il s'agit d'un cancer du col utérin. Il l'affirme avec beaucoup d'éclat, il est formel. La famille réunie pour l'entendre se retire atterrée. Le comte, en reconduisant Semmelweis jusqu'au seuil, sollicite une dernière fois son avis, et celui-ci ne lui laisse aucun espoir. On s'attendait au pire, quand, tard dans la nuit, la porte de la rue fut ébranlée par des coups violents. On ouvre, un homme surgit dans l'entrée, bouscule le domestique, grimpe par l'escalier et bondit dans la chambre où le comte et la comtesse sont couchés. C'est Semmelweis. Sans autre préambule, il plonge sa main sous les draps et pratique à nouveau l'examen qu'il avait déjà fait dans la matinée et qu'il avait depuis lors jugé insuffisant. Après un instant, il se relève, triomphant. « Je vous félicite, madame la comtesse, s'écrie-t-il, car je m'étais trompé. Ce n'est pas d'un cancer qu'il s'agit, mais d'une simple métrite. » Cette incartade, aussitôt colportée dans la société, lui enlève la plupart de ses meilleurs clients. Encore faut-il convenir qu'il les aurait perdus de toute façon, car la guerre est déclarée dans les mois qui suivent. Fin de citation. Où Céline a-t-il pu puiser cette anecdote? L'a-t-il inventée? Il faudrait sans doute vérifier dans la biographie anglaise de Semmelweis donnée par Sir William Sinclair, chose que je n'ai pas faite, Guillaume. Mais il me plaît de croire que notre Destouches s'est ici en réalité inspiré de sa propre expérience de carabin. Je m'explique. Fin juillet 1923, Louis fait un stage médical de 2 semaines dans le département des Ardennes, dans la commune de Revin. Une dizaine d'années plus tard, on se souvenait encore de lui, comme le rapporte un journaliste local, que je cite. Le docteur Destouches a habité Revin en juillet 1923. Il y remplaçait le docteur Boucher. Contrairement aux affirmations de presque toute la critique, son voyage au bout de la nuit n'est nullement une autobiographie. Les Revinois qui ont connu le docteur Destouches ont gardé le souvenir non pas d'un bardamu, mais d'un garçon très sympathique et très distingué, n'ayant de commun avec son héros que l'amour du paradoxe. Le peuple ardennais a discerné en lui un type. Un type original qui s'est traversé la rue Victor Hugo en purette. Alors en purette, entre parenthèses, c'est d'après le dictionnaire une expression typique des Ardennes. Ça signifie quelque chose comme être peu vêtu. Fin de la parenthèse. Un jour qu'il voulait ausculter le côté droit d'une bonne vieille, perché dans un de ces vieux lits ardennais, haut sur pattes. Ce côté droit étant celui du mur, le docteur était fort embarrassé. Ne pouvant déplacer le lit tout seul, il fit un bond par-dessus la brave femme, et put ainsi accomplir scrupuleusement son devoir professionnel. La pauvre a survécu quelques mois à ce traitement acrobatique. Fin de citation. Peut-être je m'emballe un poil, Guillaume, mais je souris en mon fort intérieur. Je reconnais dans l'attitude non conformiste et enthousiaste de Céline celle qu'il prête justement à Semmelweis. Partout dans le texte de notre thèse, un mélange complexe de faits du passé et de faits à venir jette un pont entre les destinées de nos deux médecins. Deuxième point qui me paraît important à fouiller, et triple merde aux touches à tout, qui ne saisissent jamais rien, et trouvent encore que je ne vais pas assez vite pour eux. Céline écrit, je le recite. « Ceux qui doivent créer des choses admirables ne sauraient demander à une ou deux affections particulières les forces affectives dont s'embrase leur formidable destinée. Des liens mystiques les relient à tout ce qui existe, à tout ce qui palpite, les garde et souvent les enchaîne dans un enthousiasme sacré. » Quels sont ces liens mystiques qui enchaînent dans un enthousiasme sacré, qui suscitent, qui allume de formidables, c'est-à-dire étymologiquement d'effrayantes, destinées. Pour répondre à cette question, il me faut revenir à un traité fort ancien, rédigé au tout début du IVe siècle avant notre ère. Je veux parler du dialogue platonicien entre Socrate et un rhapsode, c'est-à-dire un troubadour célèbre de l'époque, un certain Ion. Platon, qui est encore jeune au moment de rédiger son dialogue, s'interroge sur la poésie, sur la nature de la source où les poètes puisent leur talent. Écoute bien, Guillaume, prends soin de remarquer les mots qui ont frappé l'esprit de notre Louis. Je traduis rapidement le passage qui nous intéresse. C'est Socrate qui parle. Je le cite. « Je vais t'exposer ma pensée, mon cher Ion. Ce talent que tu as de bien chanter, de bien commenter Homère, n'est pas le résultat d'une simple technique. » Comme je le disais tout à l'heure. C'est plutôt une espèce de force divine qui te transporte et qui est semblable à celle de la pierre magnétique. Cette pierre non seulement attire les anneaux de fer, mais leur communique la vertu de produire le même effet et d'attirer à leur tour d'autres anneaux. En sorte qu'on voit quelquefois une longue chaîne de morceaux de fer et d'anneaux suspendus les uns aux autres, qui tous empruntent leur vertu de cette pierre magnétique. De la même façon, c'est la muse qui donne au poète son inspiration. Puis celui-ci la communique à d'autres, et il se forme ainsi une espèce de chaîne, la chaîne de l'inspiration. Ce n'est pas simplement de la technique, il y faut en plus de l'enthousiasme et une espèce de délire. C'est à cet enthousiasme, à ce délire, que les bons poètes épiques doivent tous leurs beaux poèmes. Il en va de même pour les bons poètes lyriques. Ils ressemblent à ces corybantes, qui ne font leur danse sacrée que lorsqu'ils sont hors d'eux-mêmes. Ce n'est pas la plate résonante technique qui permet aux poètes lyriques de trouver leurs beaux vers. Il faut en plus que l'harmonie et le rythme entrent dans leur âme, la transportent et la mettent hors d'elle-même. Le poète est un être léger, ailé et sacré. Il est incapable de chanter avant que le délire de l'enthousiasme ne le saisisse. Fin de citation. Ne reconnais-tu pas là, Guillaume, chez Platon, ce fameux délire, cet enthousiasme dont Louis-Ferdinand Céline ne cessera de marteler l'importance depuis sa thèse d'étudiant jusqu'aux derniers entretiens qu'il donnera début des années 60. Ceux qui doivent créer des choses admirables, c'est-à-dire très précisément selon l'étymologie grecque les poieitai, les poètes, ne sont enchaînés par des liens mystiques à tout ce qui palpite, selon le mot du docteur Destouches, que par l'élan délirant d'un enthousiasme sacré. Voilà la célèbre Aurea Catena, cette chaîne d'or platonicienne de l'enthousiasme, si souvent commentée par les humanistes du XVIe siècle, et qui fascinera notamment François Rabelais, pour citer un autre médecin que Céline a copieusement pratiqué. Donc je répète, c'est le délire, en grec « enthousiasmos », qui permet l'authentique création, « poiesis ». Entre parenthèses, le mot « délire » lui-même vient du latin « delirium ». Il est ainsi expliqué par un romain célèbre dans l'Antiquité, Varron. Le délire, c'est ce mouvement de l'âme qui permet, je cite, de sortir du sillon, des lyra, tracé par la résonante, médiocrisante, aveugle raison. Dans un entretien publié en 1957, Céline approfondit un peu cette idée. Je le cite. La raison, ils me font rire. On peut rien faire comme ça, tout est masculé. En réalité, il faut être fou. Regardez, ce qui les contrarie, c'est qu'on n'a jamais réussi à faire raisonnablement un enfant. Rien à faire. Il faut un moment de délire pour la création. Fin de citation. Ailleurs, Céline précisera l'origine de ce délire. Ainsi, dans cette lettre au professeur juif américain Milton Indus, par exemple, je cite. Pour délirer juste, il faut que cela vienne du trognon de l'homme, de son âme, pas de sa tête. Tous les délires dans le genre Sartre, Camus et tutti quanti. Crotte de bique. Fin de citation. Je pourrais citer mille autres extraits autour de ce mot délire, mais voyons maintenant son synonyme, en tout cas sous la plume de Céline, l'enthousiasme. C'est de toute évidence un mot d'une importance capitale chez notre écrivain. Lui aussi mérite que je m'y arrête. Regardons d'abord comment Destouches l'emploie à propos de Semmelweis, qui, malgré son caractère peu enclin aux recherches scientifiques, va se jeter à corps perdu dans la recherche de la cause infectieuse de cette foutue peste des mers, la fièvre puerpérale. Je cite. En ce qui le concernait, Semmelweis n'avait aucune ambition. Il ne se serait jamais engagé sur le chemin des recherches s'il n'y avait été entraîné par une ardente pitié pour la détresse physique et morale de ses malades. C'était en somme un poète de la bonté, plus réalisateur que les autres. On peut se demander si la tiédeur, l'égoïsme, ne sont pas en somme les plus grands obstacles au génie chez la plupart des médecins de grand talent. Pour franchir les échecs de l'à peu près, l'ordinaire lucidité ne suffit pas. Il faut au chercheur une puissance plus ardente, une lucidité pénétrante, sentimentale comme celle de la jalousie. Nous avions pressenti par d'autres vies médicales que ces élévations sublimes vers les grandes vérités précises procédaient presque uniquement d'un enthousiasme bien plus poétique que la rigueur des méthodes expérimentales qu'on veut en général leur donner comme unique genèse. La méthode expérimentale n'est qu'une technique, infiniment précieuse, mais déprimante. Elle demande aux chercheurs un surcroît de ferveur, pour ne point défaillir avant d'atteindre le but qu'il se propose sur cette route dénudée qu'il faut suivre avec elle. L'homme est un être sentimental. Point de grande création hors du sentiment, et l'enthousiasme vite s'épuise chez la plupart d'entre eux à mesure qu'ils s'éloignent de leurs rêves. Fin de citation. Ces lignes démontrent à l'évidence que Céline avait parfaitement médité la leçon platonicienne. J'ai déjà donné l'étymologie au mot « délire ». Examinons maintenant celle qu'on donnait traditionnellement à l'enthousiasme. C'est Platon qui nous la révèle, en découpant ainsi ce mot. Enthousiasmos, ça vient de entheousiasmos, soit en français quelque chose comme le souffle du Dieu en nous, ou plus simplement le Dieu en nous. Au moment de sa thèse, Céline ignore cette étymologie platonicienne, mais il apprendra une dizaine d'années plus tard de la bouche d'un prêtre très célèbre en son temps, l'abbé Munier. Cette explication le hantera jusqu'à la fin de ses jours.
Vous avez inventé ça. Vous avez réussi à communiquer dans le langage parlé,
l'émotion de
langage, dans le langage écrit,
l'émotion du langage parlé. Oui. Mais ceci ne se fait qu'au prix d'un abominable effort, parce que la feuille de papier n'a pas envie de ça. Elle n'a pas envie. Je crois que les peintres ou les musiciens sont dans le même état. Il s'agit de préciser et de mettre à froid une affaire qui est née dans l'enthousiasme. L'enthousiasme veut dire du grec le Dieu qui est en nous. Ben, le Dieu qui est en nous, il ne tient pas du tout à être griffouillé sur du papier. Socrate disait que le langage écrit est toujours mauvais, que le langage parlé seul avait de la valeur. Il y avait du vrai là-dedans. Mais moi, je suis plus fort que Socrate, j'essaie de faire passer le langage parlé dans l'écrit. J'y suis parvenu dans une certaine mesure, et je crois assez bien.
Autre détail que j'aimerais souligner. Les auditeurs attentifs auront noté, je crois, la phrase suivante que Louis Destouches énonce comme un apophtègme. Je la recite. « Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort. » Ça lui trotte dans la tête, cette maxime. Il en est manifestement content, puisqu'il la retravaillera quelques années plus tard pour son voyage au bout de la nuit. Le passage est célèbre, je le cite tout entier. Ce qui est pire, c'est qu'on se demande comment le lendemain on trouvera assez de force pour continuer à faire ce qu'on a fait la veille, et depuis déjà tellement trop longtemps. Où on trouvera la force pour ces démarches imbéciles, ces 1000 projets qui n'aboutissent à rien, ces tentatives pour sortir de l'accablante nécessité, tentatives qui toujours avortent, et toutes pour aller se convaincre, une fois de plus, que le destin est insurmontable. Qu'il faut retomber au bas de la muraille, chaque soir, sous l'angoisse de ce lendemain, toujours plus précaire, plus sordide. C'est l'âge aussi qui vient, peut-être, le traître, et nous menace du pire. On n'a plus beaucoup de musique en soi pour faire danser la vie, voilà. Toute notre jeunesse est allée mourir, déjà, au bout du monde, dans le silence de vérité. Et où aller, dehors, je vous le demande? Dès qu'on n'a plus en soi la somme suffisante de délire. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Il faut choisir, mourir ou mentir. Je n'ai jamais pu me tuer, moi. Fin de citation. Alors Guillaume, tu me reprochais dans une précédente émission de trop m'intéresser au roubrouillon de Céline. Curieux reproche quand on y songe. Un peu comme si tu reprochais aux amateurs de Rubens leur enthousiaste curiosité pour les cartons préparatoires du peintre d'Anvers. Enfin soit. Laisse-moi te proposer un petit exercice de stylistique célinienne, Torquemada Guillaume. Dans Semmelweis, écrit en 1924, je répète, on trouvait, écoute bien. Dans l'histoire des temps, la vie n'est qu'une ivresse. La vérité, c'est la mort. Maintenant, dans Voyage, publié en 32, on a ceci. Récoute encore, Torquemadette. La vérité, c'est une agonie qui n'en finit pas. La vérité de ce monde, c'est la mort. Et maintenant, lisons deux extraits tirés de la légende du roi René, ce petit conte médiéval qu'on a trouvé sous forme de tapuscrit parmi les brouillons que tu juges indignes de ma curiosité. C'est Thibaut le joueur de lutte qui parle. Écoute-le, Guignolo. Les choses de l'amour dégoûteraient par leur stupidité un enfant de 3 ans suffisamment innocent pour ne pas les fuir. Il est vrai que nous possédons, dit-on, la raison, cette pauvre folle de logique. Mais après tout, au mort qui s'en va pour la terre, il faut, n'est-ce pas, un cercueil pour que le reste passe à l'abri de nos yeux. Nous aussi qui avons l'air vivants, nous allons déjà vers la terre, alors il nous faut aussi quelque chose pour nous cacher ce qui se passe en nous de vrai. Et vous l'avez, mesdames, et vous avez l'amour. Car la mort, je le pense bien, est la vérité des hommes dans ce monde. La vie n'est qu'une ivresse, une pourriture immense, l'espérance de serment. Chaque goutte de notre sang est si remplie de mensonges qu'avec une seule d'entre elles, on pourrait faire un rêve plus grand que la terre. Fin de citation. Voilà pour le premier passage qu'on trouve à la page 180 de l'édition Gallimard, en collection blanche. Maintenant le second extrait, cette fois à la page 196. Je cite « Le malheur en ce monde peut fort bien se juger à l'agonie qu'on a. L'ivresse de cette existence doit un jour cesser, et la vérité de notre univers, c'est la mort. » Fin de citation. Maintenant à notre petit exercice de stylistique. De quand Guillaume, notre petit censeur, daterait-il le style de cette légende, s'il ne devait s'en tenir qu'à ces deux extraits? Faut-il en placer la rédaction quelque part juste après la publication de Voyage au bout de la nuit, comme semble le faire Véronique Chauvin dans son avant-propos, et ceci malheureusement sans justifier aucunement son assertion? Je la cite. « À ce jour, on ne peut dater précisément l'écriture de ce premier texte d'inspiration médiévale, au style très soigné, mais encore conventionnel. On sait seulement, avec certitude, que Céline en avait le projet en 1932, et qu'il en avait suffisamment fait avancer l'écriture en 1933 pour en transmettre une version à son éditeur Robert de Noël, puis devant son refus pour en insérer des éléments dans Mort à crédit. » Fin de citation. Hélas, Madame Chauvin ne donne pas d'autres justifications à la datation qu'elle propose de la légende du roi René. Sauf erreur, la même chronologie est proposée dans le volume Pléiade publié en 2023, sans autre démonstration. Pour ma part, à comparer les différentes formulations que je viens de lire, il me paraît insensé de dater la rédaction de ce petit conte après celle de Voyage. Stylistiquement, ça serait un net retour en arrière, une régression stylistique quelque peu incompréhensible après les innovations spectaculaires induites par Voyage au bout de la nuit. Cela étant, je ne suis pas le pape de la vérité. J'attends tes hypothèses en commentaire, camarade auditeur. Et je reste bien entendu conscient que la datation d'un texte par l'étude stylistique de quelques-unes de ses phrases reste un exercice tout à fait périlleux. Donc, selon moi, le ton de cette petite légende, son style des plus classiques, en ferait remonter la rédaction à l'époque de la thèse Semmelweis, vers 1924. Entre parenthèses, je suis très heureux de lire dans le nouveau livre de Gaël Richard que ce grand chercheur célinien en est arrivé lui aussi aux mêmes conclusions. Je le cite. « Le dactylogramme de la légende du roi René, sa version primitive, publiée en 2023, montre que le texte proposé en vain à son éditeur Robert de Noël début 1933 avait été retravaillé à partir d'un manuscrit plus ancien. Si aucune autre source ne permet de situer la conception du roi René dans le courant des années rennaises, son style classique, encore peu abouti, prêcherait tout de même en faveur d'une antériorité à la rédaction de Voyage au bout de la nuit. » Fin de citation. Comme d'habitude, je mettrai en description toutes les références bibliographiques nécessaires aux vraiment curieux de s'instruire. Bref, revenons au texte de Semmelweis. Je crois l'avoir suffisamment démontré, cette thèse contient déjà en germe des sujets, voire même de simples motifs, que notre cuirassier mettra toute une vie à retravailler. N'importe quel étudiant des beaux-arts peut ainsi comprendre la fascination des Céliniens pour l'examen de l'évolution stylistique de leur écrivain Carabin, comme on étudierait sur les cartons les repentirs successifs du peintre.
Je suis un coloriste, n'est-ce pas, de certains faits. Je me suis trouvé en des circonstances où, par hasard, la matière à décrire était intéressante. Pour s'occuper des gens du monde, je me suis occupé des gens qui naient à ma vue et à mon observation. J'ai décrit leurs petites histoires, avec un style qui, paraît-il, est le mien.
Oui. La littérature est donc pour vous d'abord une affaire de style. Et quand vous dites style, vous le distinguez de l'histoire proprement dite.
L'histoire, je la conforme absolument au style, de même que les peintres ne s'occupent pas spécialement de la pomme, n'est-ce pas? C'est la pomme de Cézanne, le miroir de Renoir, n'est-ce pas? Ou la bonne femme de Picasso, ou la chaumière de Vlaminck, ils sont le style qui lui donne, n'est-ce pas? Il ne s'occupe pas beaucoup, l'objet lui disparaît, n'est-ce pas? Oui. Plus ou moins.
Vous savez, quand on vous lit, Céline, nous avons l'impression que vous composez vos livres d'une façon très directe, très coulante, que ce fameux style parlé qui est votre caractéristique est né d'une sorte d'improvisation constante. Est-ce que c'est vrai?
Oh non, monsieur, pas du tout. En réalité, je travaille avec beaucoup de labeur, j'ose dire. Il y a l'éloquence naturelle, mais ça, évidemment, c'est une base. Mais enfin, la feuille de papier ne retient pas l'éloquence naturelle. On connaît la pauvreté de ce que donnent les discours à la chambre ou les plaidoiries quand elles sont transcrites en sténo, n'est-ce pas? Non, et dans le peuple, l'envoi du van, n'est-ce pas? Ça fait une petite phrase drôle et puis c'est tout. Mais tenir un effort de stylisation de 400-500 pages demande énormément d'efforts, à savoir qu'il faut complètement revoir et revoir. Pour dire la vérité, 400 pages imprimées font 80 000 pages à la main.
Reprenons le fil de la thèse médicale de notre Louis Carabin. Le récit tragique qu'il fait de la destinée du Hongrois Semmelweis suit plus ou moins fidèlement les faits historiques. J'ai déjà rappelé ailleurs que Destouches, au fond, travaillait déjà comme le futur Céline dans son traitement assez lâche de la vérité historique. Ainsi, bien que chronologique, le récit ne propose pas l'exposé systématique d'un parcours scientifique et de ses résultats, quoiqu'il en suive évidemment les étapes les plus saillantes, mais c'est bien plutôt quelque chose comme une mise en scène dramatisée et au fond téléologique, des moments cruciaux où se révèle la valeur exceptionnelle de cet apôtre, passionnément dévoué au salut des jeunes parturientes, qu'était Ignaz Semmelweis. À ce propos, j'insiste encore, il faut prendre connaissance de l'extraordinaire podcast d'une durée de presque 6 heures autour du médecin hongrois, réalisé en 2021 par Christine Le Cerf, pour mesurer tout ce que notre proto-Céline a gauchi, travesti, transposé, de la vie réelle de Semmelweis, afin d'en accentuer le tragique déroulé. On ne trouve, par exemple, pas un seul mot dans sa thèse sur Maria Weidenhofer, la très jeune et très dévouée épouse d'Ignaz Philippe, qui lui a donné 3 enfants. L'intention est claire, il fallait que Louis noircisse la vie de son héros pour susciter en nous pitié et effroi devant cette solitude du médecin seul contre tous, seul contre son fatal destin. On écoutera encore le podcast de Madame Le Cerf pour bien d'autres raisons. J'ai tout à l'heure produit un extrait que je trouve intéressant dans la mesure où l'on comprend mieux pourquoi la fièvre puerpérale était devenue un tel fléau au XIXe siècle, depuis qu'avait été levé par décret impérial cet interdit religieux majeur qu'était resté la dissection des cadavres jusqu'en 1838. J'en donne ici encore un autre d'extrait, qui me paraît tout aussi important pour mieux comprendre l'idée si simple et si géniale de Semmelweis. Dans une époque où l'on croyait encore aux vieilles théories médicales remontant à Hippocrate et à Galien.
La théorie initiale, l'hypothèse initiale plutôt de Semmelweis, était que les cadavres produisaient une substance animale, organique, c'est-à-dire ce qu'on appelle en allemand, ce qu'il a appelé in texto, animalische, organische Substanz, Stoff. Et cette substance, il pensait, évidemment, était transmise par le geste médical. Parce que les médecins faisaient des dissections le matin, et ensuite, ils allaient les examiner, les femmes enceintes, et les femmes qui étaient donc en train de accoucher.
Mais à l'époque, se souvenir que les microbes n'ont pas été inventés, entre guillemets. Donc il n'a pas de notion des germes. Et donc, chose d'assez fascinant, c'est de penser qu'il ne lutte pas contre des germes, parce qu'il n'en a pas conscience. Il lutte effectivement ce qu'il va appeler, ou ce qu'on va appeler pour lui, les particules cadavériques, quelque chose d'abstrait, c'est-à-dire, effectivement, ça vient des cadavres, mais on ne sait pas ce que c'est. Ça sent mauvais, ça sent la putréfaction. Et c'est de cette odeur dont il faut se débarrasser.
Et c'est vrai qu'à l'époque, au début du 19e siècle, première moitié du 19e siècle, on est encore dans l'identification des choses par l'odeur. Donc beaucoup de choses passent par les sens, par ce qu'on touche, par ce qu'on entend et aussi par ce qu'on sent. La blessure, la mort, tout ça a une odeur.
Là où est son éclair de génie, si vous voulez, c'est qu'à un moment, il se rend compte qu'il y a une filiation de transmission des germes dont on n'a aucune notion à ce moment-là. Et il n'y avait pas de concept, j'insiste. Il sait qu'il y a un véhicule, mais il ne sait pas lequel c'est. Donc, c'est un éclair de génie. Mais il n'y avait pas de concept derrière. C'est très important. C'est voir dans la nuit.
En partant de là, il a remarqué que la maladie pouvait passer d'une femme enceinte à une femme qui venait pour une consultation gynécologique, qui n'était pas enceinte. Et tout ça, c'est en dehors d'un contexte de cadavre. La maladie passait d'une femme à l'autre. Donc il y avait un vecteur. Il réalise, à un moment donné, une observation extrêmement banale. C'est que quand on fait un examen gynécologique pour éviter de faire mal à la femme, on utilisait à cette époque-là de la graisse du porc. Donc il y avait un pot de graisse de porc dans la salle d'examen. Quand le médecin arrivait, il plongeait sa main dans la graisse de porc, faisait son toucher vaginal, et puis ainsi de suite, toutes les femmes. Il a dit, mais c'est les mains.
Semmelweis, il est dans l'empirisme, mais c'est génial, parce qu'il voit, il va comprendre qu'il est lui-même un transmetteur, qu'il transfère des particules anatomiques nécrosées, et purulentes, dans les touchés vaginaux. Mais personne ne l'avait vu avant. C'est une intuition géniale. C'est-à-dire, à un moment, il réalise qu'en voyant les étudiants passer de l'amphithéâtre à la salle de soins, il se dit, mais qu'est-ce que je fais aussi? Moi, je suis comme eux. Je vais de l'amphithéâtre d'anatomie à la salle de soins. D'un seul coup, il dit, mais c'est pas possible. C'est moi qui souille. Il comprend qu'il est le vecteur. Et que les autres, bien sûr, sont des vecteurs comme lui. Et là, c'est là qu'il comprend qu'il faut se laver les mains. C'est toujours comme ça, la science.
You make your rounds without washing.
Murdered by the filthy hands of the very doctors who consider themselves their saviors.
Semmelweis découvre que la figure médicale qui est censée être la figure qui a pour obligation de ne pas nuire est en fait la figure qui apporte l'infection, qui apporte la mort. Et ça, c'est un choc terrible. C'est une quasi-révolution copernicienne, finalement, par rapport à cette figure du médecin. Il ne suffit pas de maîtriser la technique, il ne suffit pas de savoir poser les forceps. On peut continuer à tuer. Et il va y trouver une solution, finalement, d'une simplicité absolue, qui est, il faut un nettoyage des mains. Et tout le processus de réflexion de Semmelweis s'appuie sur un processus déductif extrêmement logique. Il faut une désinfection extrêmement rigoureuse, pour permettre finalement de créer un sas entre ces espaces. La désinfection étant la sortie de l'espace de l'autopsie avant la possible entrée dans l'espace de la naissance.
Les étudiants de Vienne se lavaient les mains après les autopsies. Donc le lavage des mains existait. C'était pas suffisant pour prévenir ces fameuses particules cadavériques, mais il y avait malgré tout quand même un minimum d'hygiène. En fait, ce qui va être la rupture conceptuelle, c'est l'hygiène est une chose, mais ce n'est pas suffisant, il faut une approche antiseptique. C'est ça qui va véritablement être une étape de plus par rapport à l'hygiène.
Et il commence à faire des expériences, et donc il introduit l'hypochlorite de calcium, qu'on appelle l'eau de Javel aujourd'hui, avec quelques variante près, ou hypo, on appelait ça en Autriche et en Hongrie, hypo, hypochlorite de calcium ou chlorure de chaux, et il installe ses lavages et il montre rapidement que le taux de mortalité chute.
Et c'est là qu'il institue la règle qu'il faut un lavabo devant la salle de soins, qu'il faut y adjoindre du chlorure de chaux, de se laver les mains de manière très soigneuse, y compris les ongles, Et à chaque fois qu'on quitte une patiente pour aller à une autre patiente, on revient au lavabo, on se relave les mains, et puis ainsi de suite. Donc c'est une astreinte importante, vigilante, exigeante, et qui ne supporte pas la transgression. Et là, il sera très vindicatif et vraiment en conflit avec ceux qui ne respecteront pas cette règle. Il ira jusqu'à interdire aux étudiants d'aller en salle.
Semmelweis met donc ce protocole en place. Et progressivement, le taux de mortalité se met à baisser. En août, il tombe à 2,4% et se situe même en dessous du taux enregistré dans le second service. Semmelweis a l'impression que le problème est réglé. Mais vers le mois de septembre, le taux d'infection grimpe à nouveau en flèche. Une femme avait été admise dans le service pour un carcinome du col de l'utérus, nécessitant un drainage des matières y coreuses. On l'avait installée dans le premier lit de la rangée. Les médecins s'étaient bien désinfecté les mains à l'hypochlorite avant de l'ausculter, mais n'avaient ensuite utilisé que de l'eau et du savon pour les examens suivants. Ils avaient donc transmis les particules purulentes à toutes les autres patientes. C'est ce qui expliquait cette remontée en flèche du taux de mortalité. Après une longue introspection, Semmelweis décide de modifier sa théorie générale. Et il n'est plus seulement question de particules cadavériques. Il énonce désormais que tous les cas de fièvre puerpérale sont sans exception causés par des particules cadavériques ou par des particules purulentes transmises de patient à patient.
Donc il a adapté sa théorie, il a dit que ma théorie est plus générale. Ce n'est pas uniquement à partir de cadavres, mais c'est partout foyer sceptique, et il a très clairement prononcé le mot sepsis dans ses écrits. Et ceci est extrêmement important parce que c'est une démarche, on peut appeler ça aujourd'hui réductionniste. Il dit « j'ai une cause nécessaire et suffisante », c'est-à-dire une cause, une monocausalité pour ce phénomène.
De ce point de vue, Semmelweis, finalement, est à la pointe presque des évolutions des sociétés européennes dans le rapport à la propreté à ce moment-là, et finalement très en avance par rapport à toute une série de collègues qui s'accrochent à l'idée que la fièvre puerpérale, ça vient de 36 000 causes. Donc, on ne va pas faire d'effort sur une cause en particulier, puisque finalement, elles peuvent mourir de la fièvre puerpérale de la même manière pour d'autres raisons.
Cette révélation soudaine était d'une grande portée. Plusieurs collègues disent à Semmelweis, ce que tu viens de découvrir est comparable au vaccin de Jenner contre la variole. C'est donc une découverte d'un très haut niveau. Tous les fondateurs de la nouvelle école se rallient presque immédiatement à cette nouvelle théorie et félicitent Semmelweis de donner un si bel exemple de leur enseignement.
Semmelweis a fait sa découverte, il en a fait part à son copain Markuchowski, qui était tout à fait d'accord avec lui, il a fait part à son autre ami von Hebra, et ainsi qu'à ses professeurs Skoda et Rokitansky. Et ceux-là, ses proches, probablement ils l'ont accepté rapidement, étaient d'accord avec lui, en tout cas Markuchowski complètement, et les trois autres aussi. Mais ça ne suffisait pas, parce qu'il y avait une espèce de guerre d'université.
C'était trop révolutionnaire. C'était absolument incompatible avec la théorie cosmique atmosphérique tellurique ou avec la théorie des miasmes. Il y a donc eu beaucoup de résistance, et elle venait essentiellement de tous ces gens de la vieille école qui n'y connaissaient rien.
La résistance, alors, elle est mandarinale. Le fait que le médecin puisse être cause de la maladie lui-même, c'est une idée qui va évidemment tout à fait révolter les mandarins. Ça va être capital, ça va être majeur, ce qu'on va lui reprocher. Qu'est-ce qu'il nous raconte, nous vecteurs de maladie, nous qui sommes bien propres sur nous, qu'est-ce que c'est que cette histoire ?
Évidemment, la notion d'une cause qui est externe, on appelle ça aujourd'hui iatrogène, c'est-à-dire qui est apportée par le geste soignant, a entraîné des résistances énormes, parce qu'un médecin, surtout un médecin allemand, qui était Hochrath, qui était quelqu'un de très Herr Professor, professeur, docteur, blabla, qui était quelqu'un de très important, évidemment, on ne pouvait pas accepter ça.
Semmelweis, pour les éminences de l'université et les excellences, il a tout pour déplaire. C'est non pas un contestataire. Luther non plus n'était pas un contestataire. C'était quelqu'un qui voulait tout simplement la vérité dans l'Église. Eh bien, Semmelweis veut la vérité à l'hôpital. Et puis, c'est un Hongrois de la périphérie de l'Empire. Et par ailleurs, c'est quelqu'un qui appartient donc à cette nation hongroise qui a fait peur aussi à l'empereur, à la cour. En 1848, les Hongrois ont été particulièrement virulents dans la revendication de leur liberté nationale. Et donc c'est quelqu'un qui, évidemment, pâtit de tout cela.
Mais il nous faut revenir à cette thèse biographique que Louis défend le 1er mai 1924. On l'a vu, elle peut se lire comme un exemplum postural. C'est-à-dire comme un récit moral destiné à illustrer la dignité, la noblesse d'un comportement. En ce sens, Destouches s'adresse sans doute en premier lieu à ses bientôt collègues médecins, en leur exposant la tragédie de Semmelweis, ce martyr de la science, ce saint, laïque, mort en quelque sorte pour le salut de ses malades. Cette espèce d'hagiographie laisse par ailleurs déjà entrevoir les mêmes thèmes, les mêmes indignations, voire les mêmes décors, que l'œuvre sélinienne à venir. On pourrait ainsi disserter à l'infini sur le strictement médiocre professeur Klein, Klein, K-L-I-N, dans l'orthographe fautive de notre Louis. Tiens, entre parenthèses, Guillaume, tu remarqueras que Céline contracte ici déjà cette curieuse habitude qui ne le lâchera plus jamais, celle d'orthographier les patronymes d'une manière à tout le moins erratique, dans une intention que je, personnellement, cherche encore à définir. Bref, ce professeur Klein, infatigable persécuteur de Semmelweis, Louis Destouches le qualifie de « grand auxiliaire de la mort ».« Grand auxiliaire de la mort ». Or, cette formule annonce celle que Céline emploiera plus tard pour qualifier le capitaine Hortelan. Écoute bien, mon petit Guimauve.
Ceux de l'active racontaient qu'au quartier, en temps de paix, il n'apparaissait presque jamais le capitaine Hortelan. Par contre, à présent, à la guerre, il se rattrapait ferme. En vérité, il était infatigable. Son entrain, même parmi tant d'autres hurluberlus, devenait de jour en jour plus remarquable. Il prisait de la cocaïne, qu'on racontait aussi. Pâle et cerné, toujours agité sur ses membres fragiles. Dès qu'il mettait pied à terre, il chancelait d'abord, et puis il se reprenait et arpentait rageusement les sillons en quête d'une entreprise de bravoure. Il nous aurait envoyé prendre du feu à la bouche des canons d'en face. Il collaborait avec la mort.
Mais je préfère m'arrêter sur un autre détail qui m'avait à l'époque passablement frappé. Savoir cet asile psychiatrique dans lequel Semmelweis finira affreusement ses jours. Pour en décrire le décor et les hôtes, Louis trouve des formules qui, parfois jusque dans les détails du lexique utilisé, préfigurent absolument l'asile des aliénés que Parapine dirige au fin fond de Vigny-sur-Seine, asile qui, dans la métaphorique sélinienne, désigne évidemment notre boue ronde, lieu des plus grandes illusions, mais aussi des plus grandes vérités, la folie et la mort. C'est assez singulier, du reste, cette constante curiosité chez notre médecin de Meudon pour les fous, pour leur manie psychique. Je relisais l'autre jour, tout à fait par hasard, l'un des derniers entretiens que Céline accordait quelques heures avant de crounir. Il confessait au critique littéraire Claude Bonnefoy ceci que je cite. « Mon livre a fait du bruit. Ça m'a empêché de faire de la médecine. Je regrette, la médecine, c'était ma vocation. Je n'aurais jamais dû écrire. Mon désir était de devenir psychiatre. Cela aurait mieux valu. J'aurais soigné les fous dans un asile. On m'aurait respecté. On m'aurait craint aussi. Un médecin des fous, on croit toujours qu'il est un peu fou, lui aussi. J'aurais été bien avec le procureur, avec les gendarmes, avec tous ces gens-là. On m'aurait foutu la paix. Le travail m'aurait plu. L'univers de l'asile, cela fait comme une couche isolante. C'est parfait. C'est très bien d'être médecin des fous. Vous êtes utile, vous êtes indispensable. tandis que la littérature, les livres, voyez où ça mène. » Fin de citation. Fascination donc pour les malades de l'esprit chez Céline, et ce de l'écriture de son Semmelweis. Cette précoce fascination ne le quittera plus jamais. En témoigne cette amusante photo, inédite jusqu'en 2013, que Gaël Richard nous a retrouvée dans les archives du docteur Paul Mondin, artiste peintre et médecin-chef de l'asile psychiatrique de Quimper, que Céline rencontre une première fois début juin 1942. Cette photo que tu n'as jamais vue, Guillaume, nous montre Louis en train justement de mimer un aliéné, soutenu de part et d'autre par Lucette et le docteur Mondin. Pour ajouter au comique de la situation, Mondin fixe le photographe tout en présentant son patient, Céline, d'un geste doctoral. Lucette nous a d'ailleurs laissé un témoignage passablement hilarant de cette visite au docteur Mondin. Témoignage que je te rapporte pour le plaisir. Je cite. Le docteur Mondin était lui-même à moitié fou. Amateur de peinture, il partait représenter la nature en pleine nuit, avec ses couleurs et son chevalet. Il rentrait au matin, ravi, porteur d'un tableau entièrement noir. Sa femme voulait régulièrement se précipiter par la fenêtre, et il employait ses malades à servir à table. L'un d'eux, qui avait découpé sa femme en morceaux, était devenu coupeur en cuisine. C'était une ambiance hallucinante, cocasse et en même temps inquiétante. Fin de citation. Bref, tout ceci pour te convaincre, Guillaume, que la thèse écrite par l'étudiant Détouche, si elle constitue bien le véritable moyeu de toute l'œuvre de Céline à venir, elle est aussi et surtout, à mes yeux, le premier moyen pour aborder son intime sensibilité.
Tu me fais tant de grâce, Gay. Rengeteg munka, folytonos hadakozás, a sorozatos lelki insultusok.
What happened in July of 1865? First of all,
que s'est-il passé en ce mois de juillet 1865? Semmelweis se rend à un dîner chez des amis proches. On commence à parler de fièvre puerpérale et il n'est pas d'accord avec ce qui est dit. Il entre alors dans une rage folle, complètement disproportionnée. Sa femme est très choquée par son comportement. L'incident met fin à la soirée et on les reconduit chez eux en calèche. C'est sans doute la première fois qu'elle se dit que son mari est vraiment en train de perdre la tête. Moins d'une semaine plus tard, Semmelweis participe à une réunion à l'université de Pest. Il doit y faire une courte intervention pour réclamer une augmentation de salaire du personnel. Semmelweis monte sur l'estrade, fouille dans ses poches, en sort un bout de papier et commence à lire. C'est le serment des sages-femmes, ce qui est absolument en dehors du sujet. Janos Balacha finit par aller le chercher sur l'estrade et le rassoit à sa place. Aidé de deux autres médecins, Janos Wagner et Janos Bokai, il ramène Semmelweis chez lui et le met sous sédatif. Ils lui font également une phlébotomie, c'est-à-dire qu'ils le saignent, une méthode archaïque souvent pire que la maladie. Une fois Semmelweis sédaté, ils l'examinent et on conclut qu'il est devenu fou. C'est probablement à ce moment-là que débute la conspiration.
À la demande de sa femme, Mario, Bokai et Balacha, les deux médecins hongrois, contactent Von Hebra et décident d'un internement.
Semmelweis tombe dans le piège que lui tendent des gens qu'il connaît depuis longtemps. C'est absolument tragique. Ils partent pour Vienne en prétextant l'emmener faire une cure thermale. Ils prennent un train de nuit et retrouvent Ferdinand Hébra le lendemain matin à la gare de Vienne.
From Budapest to Vienna.
And that next morning, they met Hebra.
Hebra propose à Semmelweis.
Ferdinand Hebra said to
Semmelweis, tu sais, il y a un nouvel établissement psychiatrique que j'aimerais bien te faire visiter. Semmelweis fait bien sûr entièrement confiance à Hebra. C'est lui qui a accouché ses propres enfants et ils sont amis depuis 20 ans. Hebra et Semmelweis montent dans un fiacre qui les conduit à l'asile psychiatrique Döbling en Basse-Autriche. C'est un établissement qui accueille 700 patients, tous atteints de pathologies mentales plus lourdes les unes que les autres. En réalité, c'était un véritable mouroir.
Les soins sont dérisoires. Il n'y a pas d'infirmiers, mais des gardiens. C'est des blocos, avec des gens qui sont attachés la plupart du temps, qui sont dépouillés de leur nature humaine. C'est inhumain. On est dans un monde inhumain. Il y a rien à en espérer. Et plus on est enfermé, plus on devient malade. Et il y a des violences. Il y a des violences qui sont inévitables. Donc il y a des répressions avec les chambres d'isolement, les camisoles de force, etc. Donc c'est athérapeutique par excellence et c'est inhumain.
And there were some aides.
Des aides-soignants se sont joints à eux pour les accompagner dans la visite de l'asile. Ils traversent ensemble plusieurs salles. Semmelweis est intrigué. Il se tourne vers eux et leur demande pourquoi il y a des barreaux à toutes les fenêtres. Hebra profite qu'il a le dos tourné pour s'en aller discrètement. Semmelweis se rend compte qu'il se passe quelque chose. Il tente de le suivre. Mais pas moins de 6 aides-soignants lui sautent dessus. Il le plaque au sol et lui passe la camisole de force.
Semmelweis took him down and he was placed in a straitjacket.
On laisse, tout le monde repart. Von Hebra repart en vacances, sa femme retourne à Budapest et lui, il se retrouve tout seul. Il finit par réaliser qu'on l'a enfermé. Donc il pique des colères monumentales et donc il est battu. Et il est établi maintenant, quasiment, en deux reprises. La deuxième fois, il était presque battu à mort, avec des os brisés, semblerait.
Il va mourir là. Il n'y avait pas de traitement, il n'y avait pas d'antibiotiques, il n'y avait rien. Et là, il est mort dans une double souffrance. Il a été battu, il a été maltraité, il a été traité comme un objet, pris pour un fou. Et il est mort d'une septicémie gravissime. Dans de grosses souffrances physiques, on l'a laissé mourir, on ne s'est pas occupé de lui. C'est comme ça qu'on peut résumer ces derniers jours.
And within a day or two, he developed an infection and
en l'espace d'un jour ou deux, Semmelweis développe une infection. Des stries rouges lui apparaissent sur tout le bras. Il devient de plus en plus fébrile, la fièvre ne cesse de monter, des furoncles lui recouvrent tout le corps. Il commence à ne plus pouvoir fermer la bouche. Sa langue ressemble à du bois tellement elle est gonflée. Il a de plus en plus de difficultés à respirer et meurt en silence dans la soirée. Cela faisait 12 jours qu'il avait été interné.
The same type of systemic infection that he had been trying to fight against.
La même infection qu'il essayait lui-même de combattre.
The same type of infection that these women had died of.
La même infection qui avait tué tant de femmes.
And that's
voilà.
How he came to die.
Comment il est mort.
Angels then!
Dans ce qui aurait pu n'être qu'une thèse, le jeune des touches investit tout un imaginaire, celui qui, dans sa polarité, gouvernera l'œuvre de Céline. Le rôle positif est dans ce domaine un émerveillement devant la naissance et devant l'enfance. Il porte par là à sa limite la tension avec l'autre pôle, négatif, d'obsession de la mort et de la manière dont tant d'hommes si souvent s'en font les complices. Les ayant pour commencer discerner l'un et l'autre chez son héros, il les magnifie ensuite de son propre chef. Semmelweis lui-même déclarait « Je dois vous avouer que ma vie fut infernale, que toujours la pensée de la mort chez mes malades me fut insupportable, surtout quand elle se glisse entre les deux grandes joies de l'existence, celle d'être jeune et celle de donner la vie. » Dans la dernière page de la thèse, Céline conclut « Il semble qu'il n'y eut au fond de cet être aucune indulgence pour le sort commun, pour la mort, et rien de possible en lui qu'une foi immense dans la vie. » Sur ces deux sujets, en tout cas de la naissance et de l'enfance, Céline ne laissera pas de partager cette foi. À l'opposé de l'image désespérée qu'il donne de lui par tant de déclarations, il sera jusqu'au bout un chantre de l'accouchement. Il y reviendra à plusieurs reprises, au milieu des imprécations et des provocations, dans ses derniers romans. Par exemple d'Henri Godon, je cite « J'ai été accoucheur, je peux dire passionné, par les difficultés de passage, vision au détroit, ces instants si rares où la nature se laisse observer en action, si subtile, comment elle hésite et se décide, au moment de la vie, si j'ose dire. Tout notre théâtre et nos belles lettres sont au coït et autour, fastidieux ressassage. L'orgasme est peu intéressant. Tout le battage des géants de plumes et de cinéma, les millions de publicités ont jamais pu mettre en valeur que deux ou trois petites secousses de croupions. Le sperme fait son travail bien trop en douce, bien trop intime. Tout nous échappe. L'accouchement, voilà qui vaut la peine d'être vu, épié, au millimètre. » Fin de citation. Et ailleurs, dans Féerie pour notre foi, je cite « Tous les vagissements me passionnent. Pensée, des années à tarnier, brin d'eau, l'entuée joule, les premiers cris, le premier cri, tout gras et glaire, mon affaire, les toutes petites tronches écarlates, bleues, strangulées déjà. Si j'ai aidé des êtres à naître, comme ils arrivent, vous me remettez dans les souvenirs. Poussez, ma petite dame, poussez. » J'ai entendu bien des cris. Je suis un homme d'oreille, mais le duo d'accouchement, maman le petit Nyasse, voilà un accord à se souvenir. La maman juste finit de crier, le mot me reprend.
Les héritiers de Semmelweis, c'est nous tous. C'est finalement les chercheurs qui font la recherche. Par exemple, moi, dans la recherche biomédicale, on applique ces démarches, on applique exactement cette façon de procéder. Il a un legs scientifique et finalement aussi humaniste, car il était préoccupé de son prochain, des malades, et préoccupé par sa Selbstschuld, c'est-à-dire il se sentait lui-même coupable étant donné qu'il avait introduit ses germes par ses actes médicaux. Et ceci est quand même un exemple très clair pour nous tous et qui doit être retenu pour l'éternité.
Le legs, moi je vois son humanisme, son respect en particulier des femmes. Je ne pourrais pas prétendre qu'il était féministe, mais il était quand même pour la reconnaissance pleine et entière des femmes qui n'avaient pas de droit. Hein. C'en était encore au XIXe siècle. Donc probablement qu'il était pour une émancipation féminine, ne serait-ce que de les conserver en vie. Donc son humanisme, sa clairvoyance, son héroïsme en luttant contre tout ce qu'il a eu à subir de vexation et de mépris. Donc il a résisté à tout ça. Et puis, ce qu'on veut appeler sa vision, c'est-à-dire quand même il a engagé la médecine pour quelque chose qui allait être capital, qui allait être la sepsie. C'est comme ça que je vous dirais.
Quand je regarde le passé, une tristesse profonde m'envahit. Je ne parviens à la chasser qu'en pensant à l'avenir. À cette époque heureuse, où toutes les maternités du monde ne connaîtront plus aucun cas de contamination. Et si par malheur, je n'étais plus là pour le voir de mes propres yeux, la certitude inébranlable que ce moment viendra suffira à rendre l'heure de ma mort joyeuse.
Ces dernières lignes de l'étiologie, c'est ce qui m'émeut toujours le plus chez lui. Je les trouve magnifiques. Et c'est un exemple. Un exemple pour nous tous.
Oui. Comment conclure une histoire pareille? Comment finir cet opéra? C'est difficile.
Semmelweis dies, and then the women come out, the ghosts. Sort of like earlier on, the woman.
Semmelweis meurt à la fin, et les femmes entrent sur scène. Tous ces fantômes, toutes ces femmes mortes surgissent du passé pour emmener Semmelweis, et elles chantent. C'est comme un chant funèbre dans une cathédrale, un peu comme si elles chantaient pour ses funérailles.
You know, for his funeral or something like that. The woman who had been there at the very opening of the opera, she comes out.
La femme qui avait ouvert l'opéra monte à son tour sur scène. Elle frappe tout de suite par son allure atemporelle, plus contemporaine, comme si elle représentait les femmes d'aujourd'hui. Celles qui vivent désormais avec l'héritage de Semmelweis, avec cette découverte qui a sauvé tant de vies. C'est elle qui tient la bougie. Parce que l'héritage doit se perpétuer. La flamme doit continuer de brûler. Elle descend de scène, marche jusque dans la rue, la bougie à la main, dans les ruelles de Budapest. Elle s'en va, tout simplement.
Je suis mieux que sur le côté.
Ok.